Gameblogueuses, gameblogueurs, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog pour un nouveau podcast de la rédaction. Avec moi aujourd'hui, nous avons Julo.
Hey, salut.
Donc Camille et nous avons salut. Carole.
Hey, comment ça va?
Une petite semaine passée sous le signe de l'actualité. Nous aurons deux thèmes que nous allons développer juste après dans le sommaire. Je rappelle juste en préambule de ce podcast qu'il y a une semaine d'actu assez chargée, mine de rien, et que nous vous invitons à aller tout simplement. Consulter nos derniers articles et nos dernières vidéos, notamment sur le HTC Vive ou encore le test d'UFC 2 qui est arrivé ou Mortal Kombat XL, mais évidemment aussi
que subtilité.
Oui, exactement, que des trucs un petit peu fins, un peu poétiques. Ouais. Et évidemment, je vous invite aussi à aller consulter les tout nouveaux rendez-vous que Gameblog vous propose depuis maintenant quelques semaines, à savoir les tribunes, la chronique de l'explorateur, la tribune du Japon aussi, que Axel nous a pondu là en début de semaine, qui était très intéressante, et aussi les Je me souviens. Et puis évidemment les hors-jeux auxquels vous pouvez vous-même participer, on vous y exhorte même, envoyez-nous des petites vidéos de vos hors-jeux, on n'hésitera pas à les passer dans les séquences en question. Et puis il ne faut pas oublier non plus Retro Prime Turbo, d'ailleurs
Super Retro Prime Turbo
s'il te plaît, pour lequel j'ai fait
c'est facile comme nom à retenir, merde.
Pour lequel je me suis d'ailleurs investi avec un. D'ailleurs, je me suis investi pas encore au moment où vous allez le voir.
Non, ouais, mais bon, il faut se dépêcher là.
Ouais, on va se dépêcher sur Wonder Boy in Monster World. Toi, t'avais fait quoi déjà, Julo?
Gambare Goemon.
Ah oui, c'est
alias,
vrai.
Alias Mystical Ninja.
Exactement.
Et Romain s'était occupé du cas de.
Je me rappelle plus.
Mickey Mouse.
Castle of Illusion.
Voilà. Évidemment. Et puis évidemment, il y a aussi The Troll. Bref, c'est tout en haut du site. Sur la barre de navigation et la partie marquée en ce moment, n'hésitez pas, il y a un lien pour aller voir tous ces nouveaux contenus. N'hésitez surtout pas, et surtout si vous aimez, n'oubliez pas, vous pouvez devenir premium, vous aurez plein d'avantages et vous sentirez bon, n'est-ce pas Julo?
Tu dis ça parce que je sens bon?
Non, parce que
non,
c'est justement, je pensais au contraire en te regardant. Enfin bref, nous allons passer au sommaire de ce podcast immédiatement, qui va être assez simple puisque cette semaine
on se regarde dans un générique des années 80 un peu, hein.
C'est vrai?
Ouais,
tu sais ce que c'est au moins la musique?
Vas-y, dis-moi.
Non, je te le dirai pas.
D'accord.
Je laisse toujours nos chers auditeurs et auditrices deviner pour nous. D'ailleurs, ils n'ont jamais donné la réponse, je crois. C'est le moment de
vous y mettre. Bande de nuls.
Bon, quoi qu'il en soit, nous allons parler de, non pas un, mais deux jeux cette semaine, à savoir Hitman et The Division. Ce sont les jeux dont on parle le plus, évidemment. The Division, c'est peut-être le plus gros phénomène de ce début d'année. Et Hitman, eh bien... on va voir la réponse ensemble, puisque nous sommes deux personnes à y voir. J'ai effectué le test. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le test vidéo, comme pour The Division. Et on va essayer de savoir si ce premier épisode de ce volet épisodique est de bonne facture. Mais avant ça, vous le savez, il y a un petit rituel. Et ce petit rituel, je vais me tourner vers Julo. Non,
c'est
vers toi, Camille. Et le petit rituel,
eh
bien, c'est le win. Qu'est-ce qui a winné cette semaine, mon cher Camille?
Alors, le jeu qui a winné cette semaine, c'est Call of Cthulhu. Donc,
Call of Cthulhu.
L'appel de Cthulhu.
Mm-hmm. Cthulhu, c'est voilà.
Ça, ouais.
C'est... Très difficile. Tu sais prononcer Cthulhu, toi?
Cthulhu, c'est comme ça qu'on dit.
Il y a plusieurs prononciations, on n'a jamais vraiment su. Même l'auteur lui-même, je crois qu'il n'a jamais su comment le prononcer. Mm-hmm. Donc, Call of Cthulhu, donc un jeu qui était prévu d'origine sur Frogwares.
Ouais. Qui devait être développé pour Focus Home,
voilà,
Interactive, c'est ça?
Avec un partenariat avec Focus. Mm-hmm. On a appris ensuite par la suite que le jeu serait possiblement annulé.
Mm-hmm.
Et là, il y a quelques temps, on a appris que finalement, Frogwares travaillait encore sur un jeu de la licence Lovecraftienne,
ouais.
Et préparait un jeu aussi de son côté. Donc maintenant, on a deux jeux. On a un jeu Call of Cthulhu, donc ça, développé par Cyanide et édité par Focus.
Qui lui
et
s'inspire du jeu, directement du
directement
jeu de rôle,
du jeu,
papier,
voilà.
Crayon, vraiment, des, qu'on connaissait.
Voilà. Et un jeu qui s'inspire vraiment de l'inspiration pour Frogwares. Donc,
et qui s'appelle
le nom, qui s'appelle Sinking City.
The Sinking City, absolument. Ouais.
Donc là, c'est vraiment de l'inspiration, mais c'est pas la licence.
On sait pas trop.
Ouais, on sait pas trop. Hein, c'est ça. Il y a des images qui ont fuité. C'est vraiment très Lovecraftien.
Ah bah, il y a du poulpe partout. Voilà, il y a de la flotte. Donc,
étant moi-même un grand amateur de Lovecraft, c'est vrai que ça refait vraiment penser à son univers. Donc après, reste à voir ce qu'ils vont nous faire les petits gars de Frogwares.
Ah bah, ils l'ont dit en partie. Hein, c'est un jeu d'enquête en monde ouvert.
Ouais, mais reste à voir le résultat aussi. Moi, je
on peut leur faire confiance. Les ouais. Sherlock Holmes sont en général de bonne facture, hein, si j'en crois Traz en tout cas.
C'est vrai, ouais.
Crime and Punishment était plutôt pas mal. The Devil's Daughter qui arrive en cours d'année a l'air pas mal non plus. Le seul truc, c'est vrai, on n'a pas discuté, c'est que ils n'ont pas d'éditeur.
Et ils n'ont pas d'éditeur, en fait. Ils ont décidé de faire les choses eux-mêmes. Et
ouais. Pour l'instant, en tout cas. Parce qu'on leur, ouais. leur a demandé directement à Frogwares vous n'êtes pas avec Focus, vous n'avez pas d'éditeur, etc. La réponse, c'est moi qui l'ai reçue, c'est nous n'avons pas d'éditeur pour le moment, on ne sait même pas si on en veut un. Bah oui, voilà, c'était très rapide, très simple, ouais, très clair.
De plus en plus de jeux, ils s'autogèrent, hein, donc pourquoi pas.
Bah oui, exactement, pourquoi pas. Puis une double ration de Cthulhu, franchement,
je suis vraiment preneur, ouais.
Bon, la vie n'est pas faite que de win, n'est-ce pas, mon cher Julo?
Pourquoi c'est toujours moi les fails d'abord, en fait? J'ai remarqué que souvent tu filais les wins aux autres.
Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux?
Non, moi j'obéis, il n'y a pas de soucis.
On m'a dit que tu portais malheur à certaines licences.
Ouais, bah c'est pas vrai, regarde, chez Shenmue 3 va sortir. Peut-être. Ouais. Ok, non, j'ai peut-être parlé trop vite là.
Et Alan Wake? Alan Wake's Return, il va sortir?
Bien sûr. Mais un jour, c'est ça.
Ouais,
un jour
que ce ne sera pas Alan Wake's Return.
Ouais. Bon, bref, ce fail est un peu en mode miroir par rapport au win, dans le sens où cette fois, c'est un projet qui était bien en cours. Il était même en bêta fermée et puis il a été annulé. On parle là de Fable Legends. Mm-hmm. Le fameux Fable Legends, développé par Lionhead en exclu Xbox One PC. Et qui s'était transformé il y a peu en free-to-play, d'ailleurs. C'est au moment, justement, où il a lancé, du coup, une nouvelle bêta. La bêta est toujours en cours, on peut y jouer, mais le jeu, lui, est annulé. C'est une mauvaise nouvelle pour Lionhead et pour tous les fans de cette licence, évidemment, qui a été annoncée par Hanno Lenke de Microsoft Studios Europe, qui a déclaré dans un article sur Xbox Wire que le jeu était donc annulé et que ces changements prennent effet alors que Microsoft Studios continue à dédier ses investissements et ses ressources en matière de développement aux jeux et licences que les fans trouvent les plus excitants et auxquels ils ont le plus envie de jouer.
Sous-entendu, Fable, personne
n'a envie d'y jouer, vous faites ça pour
c'est
rien,
dommage.
Autant arrêter les mecs. Et figurez-vous que Microsoft est même en discussion avec les gens du studio pour décider d'une fermeture de celui-ci, donc ce serait la fermeture de Lionhead possiblement. Lionhead, on sait, c'est quand même un grand studio anglais à qui l'on doit tous les précédents Fables.
Mais il y avait aussi le jeu où on avait des singes, des animaux géants là. Merde, comment c'est Black and White.
Oui, c'est ça.
Black and White. Elle était mise de côté cette série et pourtant elle est vraiment. Moi, je l'ai trouvé magistrale.
C'est vrai. T'aimais bien mettre des gifles à ton singe géant.
Honnêtement, c'était un des God Games. C'était absolu quoi. Celui qui a marqué les esprits.
C'est toujours triste, un peu triste, hein. Donc du coup, à mon avis, ils sont en train de quand il dit qu'il est en train de discuter avec eux, c'est certainement pour un peu recaser tout le monde à droite à gauche dans les différents studios de Microsoft. Mais
il a précisé que c'était pas en rapport, enfin que l'arrêt du jeu et la fermeture éventuelle du studio n'étaient pas liés au talent des développeurs artistes de Lionhead.
Oui, parce qu'ils peuvent avoir tenté tout ce qu'ils veulent avec Fable Legends.
Exactement.
Bon, pour l'avoir joué le 3 2014, c'était quand même pas extraordinaire.
Donc comme je vous le disais, le jeu était en bêta actuellement là depuis des semaines. D'ailleurs, moi-même, j'avais pris une inscription à la bêta. J'ai jamais téléchargé le jeu au final, mais je continue à recevoir régulièrement des mails qui disaient « Ouais, on a ajouté ci, on a ajouté ça », jusqu'à il y a très peu de temps, peut-être la semaine dernière.
Ouais.
Donc, ça m'a vachement étonné. Et d'ailleurs, cette bêta fermée, si vous pouvez récupérer un code, je ne sais pas comment, mais ça doit être faisable.
Elle continue.
C'est collector, parce qu'elle continue. Et vous pouvez y jouer jusqu'au 13 avril, normalement. Donc, c'est vraiment collector.
Ça,
c'est un jeu qui va disparaître. Donc, voilà. Pour l'histoire qui reste à écrire du jeu vidéo, c'est bien d'aller y jouer, de prendre des captures d'écran, des vidéos, etc.
Voilà. Bon, c'est quand même un peu triste, hein, tout ça.
C'est tristoun. C'est tristoun.
Je vous propose qu'on fasse une minute de silence.
Non, on va pas faire
une minute de
silence.
Ça risque de faire chier les gens.
On va plutôt la faire à la fin quand le générique
sera passé. Quand on aura raccroché.
Ouais, exactement. On va passer au premier thème de cette semaine. Et le thème de cette semaine qui commence ce podcast,
voilà, c'est sérieux,
C'est super sérieux. Bah, c'est tellement sérieux, une pandémie, tu t'imagines, si ça nous arrivait.
C'est pas cool.
Ça risque d'arriver.
Ça viendrait bien un jour.
Oh, oui, bah bien sûr, évidemment. Et je vais me tourner vers toi, mon petit Gami, parce que c'est toi qui as réalisé le test de The Division. D'ailleurs, vous pouvez retrouver déjà le test vidéo au moment où le podcast paraît pour les premiums. Tu nous as fait un petit test sur PC, Camille.
Effectivement, The Division, qui est quand même, on peut le dire, le jeu peut-être le plus attendu de l'année 2016.
En tout cas, c'est sûr que nous, dès qu'on en parle, c'est la ruée.
Grosse attente derrière,
Pour en avoir parlé d'ailleurs à nos contacts chez Ubisoft, ils nous disaient aussi eux-mêmes que c'était évidemment, c'est pas une surprise, hein, on s'y attendait, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme engouement autour de ce jeu qui s'est joué ces derniers mois, en fait, parce que tout le monde avait été déçu parce qu'on avait vu au dernier E3.
Depuis l'alpha et la bêta, on peut changer.
Mais depuis l'alpha, ça a tout changé.
Bon, on peut même dire tout de suite, au moment où on enregistre le podcast, on a eu cette information ce matin en nous levant.
Un lapin.
Voilà. Pourquoi tu me dis ça?
Ce matin, un lapin.
C'était pas un lapin qu'ils ont eu Ubisoft pour le coup, et pas un lapin crétin non plus, même s'il y en a qui sont planqués à l'intérieur du jeu. C'est plutôt une bonne nouvelle, à savoir que c'est le meilleur lancement Ouais. Les meilleures premières 24 heures de vente d'un jeu Ubisoft de toute l'histoire de la société. Et au passage, ça fait partie des trois meilleurs lancements d'une nouvelle licence, tout court. Enfin, disons que trois des jeux font partie des quatre meilleurs lancements de tout.
Non, on va commencer à s'embrouiller.
Alors, attends.
Donc, chez Ubisoft, c'est le plus gros lancement.
Exactement. Okay. Et trois jeux Ubisoft comptent parmi les quatre meilleurs lancements de nouvelles licences.
Voilà, on a compris.
On a du Watch Dogs, notamment, je faisais exprès.
Donc, il y a Assassin's Creed.
Bah, à mon avis, c'est Watch Dogs et Assassin's Creed.
Watch Dogs,
absolument. Et alors, justement, maintenant, je me tourne vers toi. Est-ce que c'est justifié?
Alors, moi, je vais être sincère tout de suite avec vous.
Je vais être sincère, je m'en fous.
Ce jeu, je n'attendais pas particulièrement. C'est-à-dire que déjà de base, moi les TPS c'est pas forcément ma tasse de thé. Je suivais le jeu de loin, je vais le dire.
Et oui, mais t'avais été hypé en 2013 quand il a été montré.
Oui, j'étais hypé en 2013 à la présentation de l'E3, mais au fur et à mesure des présentations, j'ai remarqué un downgrade vraiment d'année en année. Et je me suis dit, bon, ce jeu, je pense que j'ai bien peur qu'il y ait un effet un peu à la Watch Dogs. Petit rappel, Watch Dogs, vraiment, qui avait pareil une magnifique présentation à l'E3, et au fur et à mesure, bah, le résultat n'était pas forcément à la hauteur. Donc j'avais un peu peur de cet effet-là. Et bah, après y avoir joué, après quelques heures, je me suis vite rattrapé et je me suis dit, effectivement, les attentes sont bien. Enfin, comment dire,
méritées.
Les attentes, voilà. Et bah, le jeu mérite vraiment sa place dans les jeux les plus attendus. Tout de suite, la note. C'est vrai, j'ai pas. Je vais pas. Excusez-moi.
Tu vas pas quoi? Tourner tour du pot, c'est ça?
Mais pourtant!
Tu vas pas y aller par quatre chemins?
Tu vas pas y aller par quatre chemins? Tu sais ce que tu veux dire, tu trouves pas tes mots.
Ça nous arrive souvent, t'inquiète pas.
4/5 pour ce jeu, ouais. Indispensable pour moi. Alors pourquoi indispensable? Alors moi, déjà, il faut savoir que le jeu, j'y ai joué de nombreuses heures. La première partie de mon test, je l'ai effectué uniquement en solo. Et au début, j'ai été un peu déçu. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça un peu redondant, un peu répétitif. Je me suis dit, bon, où est-ce qu'ils veulent nous mener vraiment? Qu'est-ce que le gameplay va nous donner?
Le concept, justement, du départ.
C'est un peu à la Destiny, finalement. C'est-à-dire que voilà, c'est un univers, c'est un monde ouvert, axé vraiment sur le multijoueur. Mais les développeurs ont bien précisé qu'il y avait une grosse partie, jouable en solo. Même tout le jeu est jouable en solo, et qu'on peut aussi y trouver son compte en solo. Mais moi, je suis pas vraiment cet avis-là, dans le sens où en solo, on peut très vite s'ennuyer. On trouve les missions répétitives, alors que dès qu'on accède au multi, qu'on lance le matchmaking ou qu'on invite des amis dans notre groupe, tout de suite, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. C'est-à-dire que c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. On prend son pied, avec le chat vocal qui est très bien ficelé dans le jeu, on peut vraiment donner des conseils ou des ordres aux personnes avec qui on joue.
Une vraie dimension, quoi, dans le jeu.
C'est vraiment stratégique, parce qu'en fait le jeu réclame énormément, il y a un système de couverture très important pour le combat, donc à ce niveau là c'est vraiment très stratégique. On peut dire à son pote, bon, moi, toi, tu vas te mettre derrière la barricade sur la droite, moi je vais me mettre derrière le petit muret, enfin bref, à ce niveau là c'est vraiment très tactique. Et justement, tout cet aspect tactique en solo, malheureusement, on l'a pas vraiment. C'est-à-dire que on est tout seul, on est face à des vagues d'ennemis, des ennemis qui sont pas forcément très fut-fut. Pour dire,
les problèmes d'IA.
Ouais, franchement, pas.
Ah, mon Dieu.
Ouais. Clairement, l'IA est clairement parfois vraiment aux fraises. Elle peut soit vous rusher dedans. De manière complètement stupide. Par exemple, j'ai eu un exemple dans le test d'un mec au lance-flammes qui s'approche à 2 mètres de moi pour m'enflammer.
Il crame avec toi ?
Il crame avec moi. Des mecs qui balancent des grenades et qui se lancent dessus. Enfin, à ce niveau-là, c'est pas forcément tip-top.
Et puis t'as ce fameux mec qui a une batte de baseball
et qui fonce dans le tas. Ouais, une sorte de rusher un peu à la Serious Sam. Les mecs qui vous courent dessus en gueulant. Au-delà de ça, cet aspect-là, une fois vraiment qu'on est plongé avec des coéquipiers, on l'oublie très vite. Surtout si on monte le niveau de difficulté, parce que c'est vrai que le niveau normal n'est pas forcément optimum pour profiter du jeu. Moi, je conseille vraiment de monter le niveau très vite.
D'ailleurs, en parlant de conseils, n'oubliez pas que sur le site, il y a des 10 conseils
exactement
pour pouvoir bien débuter The Division.
Où j'en parle d'ailleurs, la difficulté, c'est vrai que... n'hésitez pas à l'augmenter, d'autant que l'expérience, elle peut être doublée, c'est-à-dire qu'une mission qu'on réalise en difficulté médium peut être retentée en difficulté difficile, et donc ça fait un gain d'XP supplémentaire.
Et de loot, parce que c'est un jeu basé sur le loot.
Exactement, donc le loot, parlons-en, c'est à l'image d'un MMORPG, pour les connaisseurs, c'est vraiment un système de par couleur, c'est-à-dire qu'on a par exemple les loot gris, qui sont des loot communs, qui n'ont pratiquement aucune utilité, qui ont eu l'utilité au début du jeu, mais après, très vite, on s'en rend compte.
C'est vraiment comme dans Destiny. Hein.
Voilà, c'est ça, ouais.
Ouais, qui,
c'est
exactement ça fait hein. Comme dans Destiny, Diablo, Borderlands, voilà. Ce genre de jeu.
De toute façon, ce système de loot, ça fait bien 20 ans qu'il est présent dans le jeu vidéo. Donc, à ce niveau-là, c'est clair et net, quoi. Après, on a les loot verts qui sont un peu plus rares, ensuite les loot bleus, ensuite les loot oranges. Enfin, bref, c'est un système de couleurs qu'il faut très vite incorporer. Parce que dans le flou de l'action, on va se dire. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne, qu'est-ce qu'il faut que je ne prenne pas. Surtout qu'on n'a pas forcément un inventaire illimité. On a...
Question, le loot, il marche. Je veux dire, par exemple, tel ennemi va lâcher telle arme.
Alors, oui.
Est-ce que tous les 4 joueurs peuvent récupérer l'arme ou est-ce que c'est
le système de loot est différent selon si on se situe dans la Dark Zone et si on se situe.
Alors la Dark Zone, c'est le PVP.
Oui, la Dark Zone, c'est la zone PVP.
Tellement génial, quoi.
PVE, PVP, PVE, qui est d'ailleurs la grosse zone du endgame. Enfin, le endgame, donc ça sera niveau 30. D'ailleurs, à ce niveau-là, on espère vraiment que Ubisoft va suivre son jeu à l'aide de DLC vraiment bien poussé, parce que c'est vrai que pour l'instant, niveau 30, moi par exemple, pour mon personnage de test, il est déjà niveau 18, donc ça a été très vite en 15 heures de jeu. Donc on peut se dire, voilà, est-ce que ça va pas se finir trop tôt? Donc le endgame, oui, effectivement, c'est une zone qui est très importante pour les derniers niveaux, qui permet de prendre son pied autant en PvP qu'en PvE.
Pour ma question au sujet
et les loot, voilà, donc les loot, par exemple, dans la Dark Zone, les loot, c'est chacun pour sa gueule. Hein, c'est vraiment,
donc t'as un loot unique.
Ah, c'est
bâtard.
D'ailleurs, faut faire gaffe, tu peux tout te faire piquer. Hein.
C'est ça, tu peux te faire piquer ton loot. Ouais. Et là, tu l'as vraiment un mauvais. Hein, quand tu vois que par terre, t'as un loot, par exemple, cosmétique, un truc qui est extrêmement rare, parce que ça peut arriver. Il faut différencier deux sortes de loot. Il y a les loot cosmétiques et les loot utilitaires.
Ouais, donc tu peux changer totalement l'apparence de ton personnage et ça n'a rien à voir avec l'équipement.
Voilà. Parce que l'équipement, quand on le change, ça change uniquement la couleur. En général, par exemple, si on récupère un sac à dos, enfin, à part pour les sacs à dos, justement, mais par exemple, on change une paire de gants, la paire de gants, au lieu d'être violette, elle va être noire, par exemple, tout bêtement.
Et c'est surtout les stats qui comptent.
Mais voilà, c'est surtout les stats qui vont compter. Alors que le cosmétique, vraiment, ça va agir sur votre visuel. Si vous voulez ressembler à Jacouille, vous ressemblez à Jacouille. Si vous voulez ressembler à un badass.
Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans la Dark Zone, c'est que tous les éléments que tu vas ramasser, tu dois le savoir ça aussi. Tu as joué toi un petit peu?
Non, pas encore.
Tous les éléments que tu vas ramasser dans la Dark Zone en fait sont contaminés. Donc,
c'est ça, oui.
Voilà,
ouais, c'est ça.
Je te laisse terminer. Ouais.
Dans la Dark Zone, d'ailleurs, c'est une zone assez mystérieuse. On entend énormément de sons étranges.
Oui, si tu as l'occasion de la tester.
Des cris, etc.
On dirait des monstres. Des monstres.
D'ailleurs, en parlant.
C'est particulier.
Je l'avais déjà spécifié dans nos attentes du mois. Il est possible. Bon, après c'est vraiment mon point de vue que le dernier DLC qui avait été annoncé puisse être centré sur des zombies.
Mais forcément.
Pour moi ça me paraît évident.
C'est obligé.
D'autant qu'il y a la célèbre zone donc le parc.
Central Park,
qui est censé être une zone, un vrai charnier, donc ça pourrait être vraiment une zone qui serait exploitable dans un DLC.
Parce que Central Park n'y est pas.
Central Park n'y est pas. Donc
ça s'arrête juste à la limite.
Voilà,
avec
exactement. Voilà.
D'accord.
Ouais,
donc
ça
couvre. La zone de départ, c'est Brooklyn.
D'accord.
On y est pendant 2 petites heures. Le temps d'un tutoriel et ensuite on va directement rentrer dans Manhattan et donc là il y a les célèbres quartiers, on a
Madison Square Garden, voilà. D'ailleurs je le trouve très bien
la première mission
modélisé,
elle est dans Madison Square Garden,
c'est ça,
fait,
ouais.
Tout à fait, tu vas
mais du
sauver
coup,
le
et les loot en dehors de la Dark Zone,
en dehors de la Dark Zone en fait
quand
c'est...
tu joues à 4 avec 3 copains. Est-ce que tout le monde
peut
avoir,
tout le monde peut avoir,
le même loot,
tout le monde a son,
c'est un loot commun,
c'est un
tout
loot
le monde
commun,
récupère
le groupe en fait, c'est pour ça que y a pas besoin de se bagarrer. Après c'est là où vraiment ça devient problématique, comme on disait avec Carole, c'est pour la Dark Zone où là c'est faut vraiment le premier qui est
faut vraiment faire gaffe à pas te faire choper par des mecs.
Moi il y avait un truc qui passait sous mes yeux quand j'étais en train de regarder Twitter, j'ai vu des gens faire la queue instances.
Il y a eu une mission, enfin il y a même plusieurs missions où pour les activer il faut se rendre sur un moniteur ou aller
aller parler à un PNJ,
ouais.
Et il ne peut parler qu'une seule fois, enfin à une seule personne à la fois, ce qui fait que bah, on est obligé de faire la queue pour attendre et chacun son tour. Et ça, ça marche aussi pour les coffres, c'est-à-dire qu'il y a des coffres des fois en mission, on va se retrouver, bah, les équipes, on est, en général c'est une équipe de 4, on va se retrouver à être à 4 et à t'attendre qu'on puisse ouvrir le coffre. En général c'est des coffres de munitions par exemple, on se dit bon voilà, d'autant qu'en plus il y a le... on ne veut pas traverser ses coéquipiers, c'est-à-dire que bah, s'il y a un mec devant nous dans un couloir, on est bloqué. Donc des fois, ça donne lieu à des scènes un peu...
Alors, on ne peut pas traverser les coéquipiers. Par contre, moi, j'ai vu des PNJ entre eux se mélanger les polygones
ça, effectivement, ça
plusieurs arrive. Fois durant mes deux heures de jeu là, pendant le live.
Donc ça peut être problématique à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on va attendre donc, un mec qui est dans un couloir, bah, on va devoir attendre que le mec se bouge. Si on, s'il n'a pas forcément un micro, bah, ça va être vraiment un calvaire. Surtout qu'il y en a qui en profitent, qui, sont un peu, qui font un peu les cons et qui tournent autour pour t'empêcher de passer. Donc à ce niveau-là.
Mais comment Ubi a pu faire ça? Parce que, enfin, je sais pas, dans n'importe quel MMO, tu sais que tu peux aller parler à un PNJ quand tu veux.
Alors oui. Bah, ce problème-là, on sait pas vraiment si c'est un. Pour l'instant, Ubisoft n'a pas vraiment donné de retour, communiqué là-dessus. On espère que ça va être changé parce que c'est vrai que pour l'instant, quand on est, il y a certaines zones où on est, on peut être 30 ou 40 à attendre, avoir sa quête et.
C'est pire que la poste.
Ouais, aussi dur qu'à la
l'angoisse.
Tu fais la queue toute la journée, ouais. Tu rentres, tu dis je vais jouer, tu joues et là tu fais la queue.
Ouais. L'angoisse.
Et là c'est dit, je suis dans la quatrième dimension quoi.
À des scènes ironiques, vous avez peut-être pu voir comme disait l'ami Plumeau sur Twitter, donc sur des screenshots qu'on fuité là-dessus. Bon après c'est vrai que la plupart du temps c'est pas aussi carré. Hein. Là c'était vraiment les screens que vous voyez, c'était vraiment pour l'histoire de la petite photo quoi. Donc tout le monde se mettait dans l'ordre, mais sinon c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi.
Ah oui, ça m'étonnerait que les gens s'organisent vraiment comme ça.
Mais c'est ça, parce que les. En fait.
À toi. Oh merci, c'est gentil. C'est toujours... Non, viens, je te laisse passer.
Mais ouais. C'est toujours comme ça dans le monde de jeux vidéo. C'est un peu la course, surtout dans les jeux à tendance multijoueur. Dans les MMORPG, c'est souvent le cas. C'est pour que ce soit pour les loot ou quoi que ce soit, il y a toujours cet effet un peu ninja. Donc ninja, c'est. Bah d'ailleurs, le symptôme du ninja, c'est quand en fait on se jette sur un loot. Et bah là, c'est par exemple pour la Dark Zone, c'est exactement ça. Et pour ce problème de queue, c'est aussi ça. C'est-à-dire
et du coup,
que...
tu t'embrouilles avec tes potes quoi, bah, dans la Dark Zone.
Avec mieux y aller tout seul ou.
Avec les potes ça gêne pas parce que de toute façon en fait le loot va appartenir au groupe.
Tout à fait.
Va appartenir au groupe dans la Dark Zone, oui.
Oui, t'as pas écouté tout à l'heure, toi.
Bah si, mais attends, je comprends pas. C'est un loot
parce
unique.
Parce qu'il y a les mecs qui sont pas dans le groupe, qui sont en dehors de votre groupe.
Ah oui, d'accord.
C'est une zone.
Non, mais et après, c'est à vous de vous le partager, quoi.
Après, ouais. C'est effectivement.
Putain, c'est pareil, tu t'embrouilles. Tu veux dire, tout le monde veut récupérer le truc.
Mais le plus embrouillant, c'est quand tu vois un loot orange, par exemple, donc les loots les plus rares qui est par terre, à l'autre bout de la rue, puisque dans un gunfight, t'as pas forcément pris le temps de voir ça. C'est pour ça que c'est très important de reconnaître les couleurs.
T'as des charognards qui traînent et qui attendent.
C'est ça, faut prioriser.
Des renégats, ce sont des renégats.
Voilà, en fait, quand tu te mets à tuer un mec dans la Dark Zone, sans aucune raison entre guillemets, on devient renégat. Donc ça aussi, il faut faire gaffe. Quand on est renégat, en fait, on est affiché sur la minimap en haut à gauche, et tous les mecs dans le secteur peuvent nous repérer. Donc là, c'est le tir au pigeon.
J'ai été
et,
moi-même renégat.
Ouais.
Mais tu peux te barrer rapido ou...
Alors oui, bah le but c'est de récupérer son loot vite fait bien fait et de se casser si on veut pas se faire tuer.
Bon, je trouve qu'on a beaucoup parlé de loot là, mais on n'a pas beaucoup parlé du jeu dans ses mécaniques.
Bah c'est à cause du loot.
Donc c'est un TPS RPG jouable en ligne,
TPS RPG,
solo ou multi.
Version PC.
Et dans son aspect RPG justement, est-ce qu'il est bon ou est-ce que dans son aspect action il est bon?
Alors l'histoire est bon, somme toute très banale. Hein. C'est à ce niveau-là, c'est digne d'un film de
Tom Clancy, oui.
Voilà. Ouais. Enfin, si vous avez vu le film Contagion avec Marion Cotillard, il y a un peu cet aspect-là.
J'ai bien aimé d'ailleurs les petites zones, les zones d'écho.
Ah oui,
justement.
Oui. Ouais,
ça,
en fait,
tu pourrais peut-être en parler.
On récupère donc tout le long du jeu des espèces de balises pour expliquer l'histoire tout basiquement, comme on peut trouver dans les des cassettes vidéo dans certains
tout
jeux,
fait.
Dans les Metal Gear, etc. Donc à ce niveau-là, pour apprendre l'histoire, c'est vraiment sympa, mais sinon c'est vrai qu'elle casse pas trois pattes à un canard, quoi.
C'est classique.
Ça reste très classique. Après, au-delà de ça, le jeu repose vraiment sur le combat. Enfin, le combat, c'est vraiment une composante vraiment très très importante du jeu. Donc, si vous aimez pas les TPS, ne crachez pas non plus dessus, parce que moi je fais partie de cette catégorie et pourtant j'ai vraiment apprécié le jeu.
J'ai même envie de dire, ceux qui adorent les TPS risqueraient d'être déçus par le côté RPG qui fait que dois tirer des salves de balles pendant des dizaines de secondes pour tuer un mec alors que tu vises la tête, quoi.
C'est ça, ouais. Bah ça c'est ce qui m'a le choqué le plus, entre guillemets, moi qui viens du milieu du FPS.
Tu tues pas des personnes d'une balle dans la tête?
Comment ?
Tu peux pas tuer des personnes d'une balle dans la tête ?
Non, non.
Bah, pas une, une ça suffit c'est pas si rafale, l'ennemi faut, est fort voilà, et que toi, ton arme, elle est toute pourrie.
C'est un peu le syndrome des ennemis.
C'est un RPG.
Ah oui,
dans
d'accord,
sa tête,
c'est vraiment un côté RPG très prononcé, voire trop.
Bah, après, c'est syndrome RPG, pas forcément. C'est par exemple Fallout, on tire dans la tête et on fait des headshots direct. Hein, donc, c'est pas, c'est vraiment un désir.
Pas sur un boss, par exemple.
Ouais, voilà, ouais, pas sur un boss. Mais là, on parle vraiment de tous les mobs. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est particulier. Moi qui viens du milieu du FPS, on a l'habitude de faire un shoot en pleine tête et de tuer directement, faire un one shot, ça peut poser problème. Mais après, c'est vrai que les mécaniques sont vraiment très bonnes, que ça soit pour le système de couverture, excellent, vraiment c'est excellent.
Ah, oui.
Devoir longer les voitures, les
portes,
en fermant les portes. le système de combat qui est vraiment sympa.
Non, puis c'est intéressant, tu peux aussi aider des civils en détresse.
Voilà,
on
marche dans la rue.
D'éléments intéressants.
C'est ça, ouais, il y a plusieurs types de quêtes. Il y a les quêtes principales, les quêtes secondaires, les quêtes, comme disait Carole, donc c'est les civils qui les donnent. Enfin, c'est pas vraiment des quêtes, c'est en fait des événements qui interviennent dans la rue. Par exemple, on va tomber sur une femme en détresse qui se fait agresser par un malfrat, ouais. On va l'aider et en échange elle va nous donner
une barre énergétique
ou un petit loot cosmétique.
Et l'interface est bien bossée aussi, j'adore l'interface.
Ouais, l'interface est vraiment bien bossée. Après, vraiment, si j'avais quelque chose à redire, ça serait au niveau du matchmaking qui est pas forcément optimisé.
C'est-à-dire j'ai pas compris exactement comment ça fonctionnait. Ouais. C'est-à-dire que il y a différents endroits pour créer
soit on a une mission en cours, on va se rendre sur la zone et on va en surbrillance, en transparent, on va avoir un espèce de panneau d'affichage transparent où on va ça sera affiché voulez-vous rejoindre une équipe, donc là il y a un système de matchmaking qui va se mettre en route. Ou sinon on peut faire ça en amont, c'est-à-dire à partir de la carte cliquer sur sa mission et lancer le matchmaking, et dans ce cas-là soit on est sur la zone, on n'a pas à bouger, soit nos coéquipiers sont loin et on va se téléporter directement sur la zone de mission. Donc voilà.
D'accord. Et alors.
Oui, t'as une question sur les loots. Non, on n'a pas parlé des loots encore.
Même le QG, il est intéressant puisque ça m'a énormément rappelé la tour de Destiny.
Le QG, en fait, est améliorable. C'est-à-dire que ça fait partie intégrante de l'histoire. En fait, on a trois ailes à développer. C'est-à-dire on a une aile technologique, une aide médicale et une aide militaire, si je me trompe pas.
Alors, technique, médicale et. Alors, je me souviens plus.
Je me souviens plus du troisième non plus. Mais donc, il va falloir.
Les remettre en marche.
Il faut les remettre en marche et pour cela on va gagner des points, et pour gagner ces points il va falloir faire des missions qui sont spécifiques à ces ailes. Donc on a par exemple une mission médicale, on va gagner des points médicaux qui vont permettre d'agrandir les ailes. Donc et chaque fois qu'on agrandit une aile, ça fait avancer l'histoire, et en plus ça débloque des compétences particulières. Visuellement le QG change. Par exemple, si en premier lieu on doit développer l'aile médicale, on doit particulièrement l'hôpital de campagne. Donc une fois qu'on a débloqué l'hôpital de campagne, on a des lits de camp qui se mettent en marche.
C'est la première mission.
C'est la première mission, voilà, effectivement.
Dans le Madison Square Garden, on va sauver un médecin, justement. Voilà.
Et sinon, au niveau des versions, alors moi, j'ai vraiment. Le test a été réalisé sur la version PC. D'ailleurs, le test écrit va arriver très prochainement. Donc, version PC, vraiment très, très bien optimisée. Moi, j'ai fait ça sur une GTX 970. Ça tournait au poil. Après, pour le test.
À fond ?
Ça a tourné au poil à fond. Après, c'est vrai que. À fond sans vraiment l'être, parce que par exemple l'anti-crelénage, le post FX, j'ai un peu ralenti les choses, surtout pour le test vidéo où derrière l'application vidéo réclamait beaucoup de ressources. Donc c'est vrai que si vous lancez le jeu, surtout essayez de couper un maximum d'applications derrière. Si vous avez par exemple Steam qui tourne derrière, coupez-le, parce que de toute façon c'est sur Uplay. Donc à ce niveau là pareil, Skype etc, coupez le maximum de choses, parce que le jeu est pas très à ce niveau là c'est vraiment
il est
top.
Gourmand,
il est très très gourmand,
mais c'est justifié parce que c'est très joli.
C'est à dire que à tous les niveaux, hein, c'est vraiment c'est une pure merveille, c'est vraiment bluffant. Après il y a forcément des choses à redire, les textures sont pas forcément hyper nettes à certains endroits, mais on l'oublie vite parce que le reste est vraiment parfait. La direction artistique,
l'aspect destructif des environnements quand même est pas égal selon les
voilà, c'est ça. Alors il y a certaines zones, on voit par exemple dès qu'on avance sur un poteau par exemple, le truc va se renverser, enfin un cône de signalisation, ça va se renverser. À d'autres endroits, on bouge sur une chaise, la chaise va rester stable comme un piquet.
T'as les pare-brises des bagnoles qui résistent aux balles comme
voilà, bon, des fois
beaucoup de jeux qui sont comme ça, c'est hein. Uncharted, tu peux balancer une grenade dans une pièce avec une table, elle bougera pas.
Mais dans tous les cas, c'est vrai que si vous avez une config vraiment médium, vous inquiétez pas, il y a tellement de réglages graphiques qu'on va forcément y trouver son compte, et ça serait dommage de passer à côté d'un jeu comme ça. D'autant que, comme je l'ai dit, la direction artistique est à tomber.
Ça, ah bah alors justement, là, moi, je voudrais revenir aussi sur versions consoles.
Les versions consoles,
là, oui. Julo.
Ça, c'est.
Julo qui nous a fait un live découverte.
Bah,
qu'il a pas voulu lâcher parce que il a commencé à quoi, 14h à peu près. À 20h, il y était encore. Il ne voulait absolument pas lâcher le jeu. Toi, t'as pu voir plus en profondeur la version PS4. Je crois que toi aussi, Carole, d'ailleurs. Est-ce que ça se tient d'un point de vue graphique et est-ce que ça respecte un petit peu les promesses qui avaient été données en 2013?
J'ai vu la version PC donc après coup, et effectivement sur PC c'est plus joli, on va dire, c'est plus net.
Ouais.
C'est toujours le cas.
C'est toujours
façon,
voilà supérieur.
C'est plus beau sur PC.
Mais la version PS4 s'en tire super bien.
Ah non, mais c'est super
au niveau
beau.
Des éclairages.
Ça fait largement le job.
Au niveau de tout quoi, enfin du rendu du
les
jeu,
de lumière,
sa fluidité,
les détails,
etc.
Ouais ouais.
C'est nickel, c'est le haut du panier sur PS4 quoi. Voilà. Clairement. Donc de ce côté-là, il n'y a pas à s'en faire. On n'a pas encore véritablement lancé et testé la version Xbox One, mais pour avoir fait l'alpha moi, dessus, c'était déjà vraiment pas mal, et pas très loin du niveau que j'ai pu constater sur PS4 là. Donc voilà, c'est peut-être un peu moins bien. Peut-être qu'il y a encore un petit problème de comment on appelle ça, de résolution, je sais pas. À voir. On va tester ça plus en profondeur, sachant que d'ailleurs sur Gameblog, on vous proposera vraiment un test par version du jeu, à commencer par la version PC, comme le disait Camille, puisque c'est la version de test principale. Mais on parlera aussi des autres versions.
Bon, en tout cas, on aura compris que The Division ne divise pas trop en fait au sein de la rédac. Hein. Il est
Je trouve que en fait, vraiment,
fédérateur.
Moi, il y a deux choses qui m'ont immédiatement convaincu. C'est la formule qu'on vient d'expliquer entre voilà multijoueur, le loot, les missions, le QG, la dark zone. Enfin, le jeu est hyper bien conçu, je trouve. D'une part,
je crois qu'on va reparler du loot parce qu'on n'a pas bien compris.
Oui, le loot.
Allez,
alors,
comment ça fonctionne?
Non. Et sinon, l'autre point qui m'a vraiment frappé, moi, et là, que ce soit sur PS4 ou sur PC, enfin, je veux dire, c'est pareil. C'est le soin esthétique. Camille allait l'aborder. Moi, j'ai été frappé par le niveau de détail, en fait, de finition,
des
environnements, parce que dans chaque endroit de la ville, ça se répète pas, et en plus tu sens que tous les éléments, les petites poubelles qui traînent, les accidents de voiture qu'il y a eu là, les feux qu'il y a
eu, tu sens que ça raconte une histoire,
il y a
comme les plats dans Top
Chef, voilà, il y a presque une histoire qui se raconte à travers l'environnement, tu vois, un peu comme dans The Witness d'ailleurs, pour des raisons totalement différentes, mais un peu de la même manière, on sent ce qui s'est passé en fait, et c'est super bien foutu, hyper joliment présenté quoi, parce qu'avec cette petite neige fine aussi en permanence.
Ouais.
Et le son aussi qui est très travaillé, je trouve, les corbeaux qui croassent, le bruit du vent, les machins, t'as aussi les bagnoles qui sont là, il y en a certaines qui ont les clignotants qui sont mis en marge, d'autres non,
et la
certaines
VF
portes
est très
qui sont ouvertes, la VF est pas mal, enfin franchement je le trouve extrêmement
soigné. Mais
c'est
vrai que l'univers est très soigné, et moi qui rentrais de New York quelques jours avant de le découvrir,
New York sous la neige déjà,
New York sous la neige en plus hein, je rentrais tout juste de Snowzilla, et effectivement j'ai trouvé que c'était assez réaliste,
assez fidèle,
assez fidèle. Le Madison Square Garden, j'ai regardé tous les recoins, etc. C'est vraiment bien fichu quoi. Sauf que t'as pas le logo des Knicks sur le terrain, t'as une équipe fictive, je ne sais plus le nom, les Chariots je crois.
C'est les chariots.
C'est assez marrant. Mais en tout cas, très fidèle, à ce que j'ai en mémoire de New York, quoi.
D'accord. Bon, voilà. Maintenant.
Avais-tu un fusil à pompe à New York, sur toi?
Non, je n'avais pas de fusil à pompe. Mais en tout cas, j'ai pu bien. J'ai fait une alpha là-bas à New York. On se préparait pour The Division avec Julien, justement. On était bien préparés, du coup.
Bah écoutez, maintenant, on n'a plus qu'à parler du loot, je crois.
On a un peu évité le sujet jusqu'à maintenant.
On l'a bien esquivé. Bon,
en tout cas, 4 sur 5, indispensable pour moi. Clairement, voilà.
Bah écoutez, on va essayer de tous s'y mettre de toute manière.
Ah, moi je vais y jouer.
On va faire des teams.
Voilà,
je
cherche des copains sur PS4. J'ai trouvé Carole déjà.
Ouais.
Voilà, peut-être.
Plumeau, tu vas peut-être t'y mettre.
Normalement,
aussi,
si j'ai du temps.
Toi, t'es un joueur PC, donc tu nous snobs totalement. Normal.
Tu rejoindras Poufy sur
PC. Avec vos configs à 2 millions de dollars.
Voilà, exactement.
Ça va, vous la jouez pas.
Bon, en tout cas, on aura compris que The Division, ça fonctionne, c'est bon, et c'est pas du tout la catastrophe comme on aurait pu le croire encore en 2015.
C'était l'ascenseur émotionnel, ce jeu quand même.
Exactement.
Ah ouais,
c'est
ça.
Donc
tant mieux, ça se finit très
haut pour les équipes qui ont bossé dessus, de Massive, de Red Storm, je ne sais plus quel autre, Reflections aussi a bossé dessus. Bref, pour tous ces gens-là, c'est bien, c'est cool. Et donc un lancement réussi.
Et dernier petit point,
le loot.
Important, en dehors du loot, le fait que le jeu connaisse un succès. c'est aussi une valeur sûre pour celui qui veut s'engager dans ce jeu, qui va être suivi par son développeur, son éditeur, et qui va y avoir du contenu progressivement pour satisfaire tous ces gens qui, en nombre, y jouent et semblent l'apprécier. Quoi. Donc ça, c'est un bon point aussi. Quand tu joues un jeu avec une vraie composante en ligne, il faut que ce soit un succès pour que l'histoire continue. Quoi.
D'ailleurs, vous ne fiez pas forcément aux multiples commentaires qu'il y a sur Steam à propos de la version PC. Parce que en fait, elle a beaucoup de versions de notes négatives à cause du début du jeu. Il y a eu un petit couac au niveau du lancement, c'est-à-dire qu'il y avait un problème, il y avait des crashs fréquents, les serveurs n'étaient pas accessibles, donc à ce niveau-là, il y a des notes négatives, mais qui sont plus du tout d'actualité.
Ça va s'équilibrer avec
voilà,
le
c'est
temps.
Plus du tout d'actualité. Donc,
ouais, puis, là, puis les pseudos n'étaient pas très clairs, il y avait écrit Vincent Bolloré, je crois.
C'est bon ça.
Je suis pas sûr que ce soit très fiable.
Vincent Bobo,
ouais,
58.
Ouais,
exactement.
Bon, on va passer au deuxième thème donc, de ce podcast qui est. Oh, inquiétant. Furtif.
Un grand chauve qui arrive.
Infiltrance.
Non, il est taille moyenne.
On est censé entendre un truc là.
Ouais, on est censé entendre un truc. On entend un truc, hein. Il y a des petits booms là, t'entends pas?
C'est un bruit de code barre, non? Ah, presque.
Non, j'aurais dû prendre un bruit de code barre, c'est vrai, Carole, puisqu'on va parler de Hitman. Enfin, du premier épisode de Hitman, puisque
t'as
Hitman
pas, t'as pas dans ton piano le bruit des tontons flingueurs là?
Non, je t'ai pas. Non, mais tu le fais bien, hein, vas-y. Ouais, voilà. donc le bruit des tontons flingueurs. Hitman, donc, dont le premier épisode sort ce 11 mars sur PC, PS4 et Xbox One. Eh bien, Hitman, j'ai eu l'occasion donc de me faire ce premier épisode qui vous fait passer d'abord par un petit prologue avant d'aller dans la vraie mission principale de cet épisode qui est Paris, qui se passe pendant une espèce de défilé de mode. Bah, qu'est-ce que j'en ai retenu par rapport à mes premières impressions et par rapport à la bêta ? Et bah, c'était bien, c'était vraiment bien. D'ailleurs, c'est la note que je lui ai mis, 3,5, bien.
Bien.
Parce qu'il y a des très bonnes choses, comme il y a des choses assez antiques et assez inhérentes à la série de Hitman.
Et donc décevantes en 2016.
Et qui peuvent être assez décevantes. Alors, on parlait d'IA tout à l'heure, on peut le mettre direct dans les gros points faibles
je crois
du jeu.
On a le même avis de toute façon.
Oui, on l'a dit pour The Division d'ailleurs, hein, que l'IA, de toute façon, c'est quand même un des points à régler véritablement de génération en génération.
C'est le problème.
On se dit à chaque fois,
non
mais sur la génération prochaine, il faudra.
Bah oui, mais on est stupides nous aussi. On demande que des beaux graphismes tout le temps, mais alors qu'on voudrait,
que
les programmeurs.
C'est tellement moins important.
Mais
tellement,
le problème,
tellement.
C'est que ça bouffe beaucoup de ressources.
Il y a un moment, il va falloir.
Et que donc tu dois enlever
mettre un cap,
part,
voilà. Mettre un cap sur les graphismes et dire bon bah voilà, graphisme, on va se stopper un petit peu deux minutes, puis on va se concentrer un peu sur l'IA. Parce que l'IA de Hitman, alors elle est entre. La surpuissance par moment de quand vous faites repérer parfois bah,
sans aucune raison
tout le monde
sans aucune raison tu n'as rien fait hein. Ouais. Tout le monde te regarde genre il est chelou mais pourquoi
ouais, attendez j'ai rien fait je suis déguisé en serveur merde j'ai planqué
fait.
Le corps dans le frigo
non, mais surtout ils vous repèrent tous ensemble quoi. Il y a un lien télépathique comme chez les fourmis où ils savent exactement où vous vous trouvez au même moment au même endroit bref c'est un peu spécial et par d'autres moments bah, l'IA elle est complètement inerte elle est complètement con les mecs vous êtes repérés officiellement repérés les mecs vont rentrer chacun l'un après l'autre dans la pièce où vous vous trouvez, vous pourrez les abattre sans aucun problème. Bref, l'idée, surtout, c'est de pouvoir la jouer roleplay. C'est un jeu d'infiltration, c'est un jeu dans lequel il faut faire parler la patience, l'observation. Et y a des choses à observer hein, dans ce premier épisode. Alors, je vous passe sur les missions du prologue, une qui se passe dans un paquebot et l'autre qui se passe, elle, dans un hangar duquel doit s'échapper un joueur d'échecs dissident.
Oui, c'est un entraînement, de toute façon,
voilà.
Ça se passe à l'ICA.
Exactement, c'est, les deux premières missions par lesquelles, grâce auxquelles, en fait, l'agent 47 a été recruté à l'ICA. Donc, c'est des missions d'entraînement. Toute bête, qui c'est d'ailleurs un super tuto, hein, je tiens à le dire.
Oui,
ça permet vraiment
de
bien se remettre dans le bain et bien comprendre un petit peu à quel
reprendre
point
les mécaniques,
à quel point l'agent 47 a beaucoup de choses à faire dans le jeu, mais surtout quand on arrive à Paris. Alors déjà les deux missions d'avant, on se dit putain c'est grand, c'est peuplé, il y a quand même des trucs quoi. Bah quand on arrive à Paris, c'est la folie quoi.
C'est fantastique. Bah, j'ai eu la même réflexion que toi. Il y a un milliard de PNJ et puis tous différents.
Mais rappelez-vous du Hitman précédent, Absolution sur PS3 et 360 à l'époque et PC. Il y avait même encore plus de monde que ça.
J'avais adoré Absolution.
Mais moi aussi j'ai bien aimé. Il s'est fait démonter par tout le monde.
Disons que ça s'éloignait un petit peu de
l'ADN. Parce qu'il y avait quelques missions qui était ligne droite, un peu action,
et qui
entourait des vraies missions à la Hitman, c'est-à-dire avec un monde totalement
un vrai bac à sable,
ouvert dès le départ.
Mais là, on revient un peu à la
source. Et là, on revient, il y a quasiment que ça. Ils ont retenu.
On est plus proche d'un Blood Money pour ça, en tout cas pour ces niveaux-là, parce qu'après, il y aura d'autres niveaux dans l'année, comme l'a annoncé Square Enix, il y aura 7 missions qui vont arriver au cours de l'année 2016.
Ils vont les livrer un à un. Chapitre, ça va être un seul niveau.
Ouais.
En avril, mais avec
des niveaux d'entraînement en plus à chaque fois.
Alors, on va résumer. Pour la mission à Paris, donc t'as ton contrat de base. Le contrat de base, c'est tuer deux personnes, à savoir un mec qui s'appelle Novokov, je crois, et une dame qui s'appelle Dalia,
une ex-mannequin israélienne. Et qui est une chef
de l'espionnage. Les deux ont monté leur petite boîte pour balancer un petit peu toutes les infos sur tout le monde de l'espionnage et de l'assassinat dans le monde entier. Donc ton objectif, c'est de tuer ces deux personnes. Après, t'as des dizaines de possibilités pour y arriver.
C'est ça qui est génial. Mais il y a une rejouabilité incroyable sur Hitman. Tu peux l'appréhender comme tu veux ta mission.
Donc déjà, rien que pour ça, tu sais que même si t'as fini, et Dieu sait que tu as vraiment un paquet de trucs à faire, tu peux toujours retenter en essayant d'autres choses, parce qu'il y a des défis, des challenges qui vont s'ouvrir à toi. Et il y a aussi ta notation personnelle, parce que dans des conditions dans lesquelles tu vas l'effectuer, peut-être que tu vas tuer des innocents. Ça te retire des points. Si tu mets trop longtemps, ça te retire des points. Si tu si tu oublies de planquer un corps quelque part, ça peut te retirer des points. Et t'as envie d'avoir cette satisfaction d'avoir
fait la mission parfaite.
Exactement. Donc déjà, rien que pour ça, il y a une rejouabilité qui est bonne. Mais surtout, il y a d'autres missions qui sont greffées, qui se greffent à l'ensemble de ce premier pack.
Des challenges
différents, pas uniquement à Paris, mais aussi dans le hangar ou dans le paquebot. Ou par exemple dans le hangar, tu as un truc qui s'appelle, en tout cas il y en aura d'autres normalement pour par la suite, mais tu as ce qui s'appelle des contrats escalade. Alors contrat escalade, c'est en plusieurs étapes et ça te demande de répéter. Alors, à chaque fois, plusieurs trucs, mais ça fait grimper un petit peu en difficulté. Alors, explication. Première mission escalade, on doit tuer un général russe en étant déguisé en soldat russe et forcément, on doit le tuer avec un pistolet. C'est déjà assez compliqué parce que une fois que tu le tues avec un pistolet, ça fait du boucan et il y a du monde qui va peut-être arriver vers toi. Donc, tu réussis ça. Celle d'après, tu dois faire exactement la même chose, sauf qu'en plus, tu dois ouvrir un coffre dans un bureau qui est déjà un peu peuplé et essayer d'extraire une bouteille de vodka qui est dans ce coffre.
En gros,
le tout sans se faire repérer.
Et après, ils rajoutent de la rejouabilité à chaque mission en mettant des challenges.
Exactement,
quoi.
Ils mettent des nouveaux challenges à chaque fois et à chaque fois ça devient de plus en plus balèze forcément. Et ça fait partie des trucs qui ont été ajoutés. Et il y a quelque chose qui a été repris d'Absolution, qui est la création de contrats personnalisés.
Ouais, le mode contrat.
Exactement. Et alors là, et en plus, une fois de plus, c'est très bien expliqué, c'est très bien fait. C'est en gros, t'arrives dans une zone, tu joues librement. Et tu te mets en mode instinct, vous savez, le fameux mode qui va
voir à travers les murs,
pour voir qui est présent, pour voir les objets en surbrillance, etc. Tout ça se désactive d'ailleurs. Si vous voulez un jeu qui soit privé d'aide, vous pouvez vous en passer sans aucun problème. Vous mettez le mode instinct, vous appuyez sur triangle sur une cible que vous désignez, vous la tuez. Et suivant la façon dont vous l'avez tué, et en même temps le costume en plus de l'arme ou par exemple le mécanisme aussi, parce qu'il y a une notion de contrat farceur. Si jamais vous butez quelqu'un avec un lustre qui est tombé parce que vous avez décroché le mécanisme, ça c'est considéré comme farceur entre guillemets. Donc c'est plutôt rigolo.
Quel rôle.
Et donc en fonction des conditions que vous avez utilisées pour accomplir ce contrat, pour accomplir ce meurtre, les joueurs qui sont en ligne, qui sont connectés aussi, ils vont devoir reproduire exactement la même chose. Donc forcément, ça va créer des nouveaux challenges qui vont être à la une en fonction évidemment de leur popularité.
C'est une bonne idée qui est reprise.
Une super idée. Et il y aura encore autre chose. Alors une fois par semaine, il y aura un contrat furtif qui va apparaître. Pendant 48 heures, vous aurez une cible à aller abattre. Et ça, c'est IO Interactive qui le propose, une cible à aller abattre. Et il faudra, dans ce délai de 48 heures, essayer de vous en occuper. Normalement, ça devrait être assez difficile. Maintenant, j'y ai pas eu accès pendant le test. À mon avis, ça arrivera un petit peu après le lancement. Et ça peut rajouter encore une fois de la rejouabilité tout le temps. Et puis, je vous parle pas non plus du fait que vous pouvez choisir au début votre point d'entrée. Vous pouvez choisir de débloquer des points de sortie aussi. Choisir les armes avec lesquelles vous allez évoluer à l'intérieur. Même des déguisements au passage.
Il y a énormément de vraiment de trucs à faire, de trucs, possibilités.
Alors moi, ce que j'ai apprécié effectivement dans cet Hitman, ce sont les opportunités.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé
que c'était
vraiment intéressant. Tu veux en parler ou...
Vas-y, je te laisse faire.
J'aime bien quand tu me laisses faire. Ouais. C'est vrai que ces opportunités, elles vont se présenter à vous au fur et à mesure de votre mission, lors de votre mission, et vous allez pouvoir en fait les sélectionner
ou pas d'ailleurs.
C'est optionnel. Et même quand tu choisis de prendre une opportunité.
Alors,
tu
les opportunités, pour faire simple, hein, c'est par exemple, vous arrivez dans une pièce, il y a deux personnes qui discutent.
C'est ça.
Et qui disent, par exemple, ah, c'est incroyable, ce mec-là, avec le crâne chauve, ce mannequin, il vous ressemble beaucoup. Et il se tourne vers l'agent 47 en disant, mais c'est bizarre, vous lui ressemblez à fond et tout.
Tout à fait.
Et du coup, vous vous dites, mais je pourrais peut-être en profiter pour me déguiser en lui.
Mais on te dit que c'est une opportunité, clairement.
Tout à fait.
Avec,
oui.
Comment
te dit,
ça marche.
Tu vas même avoir une petite ampoule qui va apparaître dans l'interface et qui va te dire opportunité proche. Tu la saisis, tu la saisis pas. Si tu la saisis, à toi de la mener à bien. Tu peux la rater comme tu peux rater une mission. Mais c'est vrai que ça va considérablement, comment dire, faciliter les choses. Ça va être effectivement parfois des discussions. Ça peut se traduire aussi par des éléments que tu vas trouver. Moi, par exemple, je suis tombée sur une liste dans cette mission à Paris où j'ai découvert effectivement tous les noms des invités. Je me suis rendu compte qu'il y avait un tchèque.
Ah oui.
Donc voilà, donc
le
je l'ai suivi.
C'est un peu, sans spoiler, c'est un peu le costume d'invincibilité.
C'est un peu ça. Ouais. Et effectivement, ça m'a permis, en ayant ce costume, d'assister à une vente aux enchères
très privée. J'en dis pas trop.
Mais effectivement, voilà, ça vous permet d'avancer plus vite, d'aller entre guillemets droit au but et de faciliter la tâche.
Mais voilà, vous pouvez les désactiver.
Ça, c'est intéressant.
Ça a été plus ou moins repris, je trouve, d'Assassin's Creed en fait. Parce qu'à partir de.
Ah oui, c'est pas
Assassin's
faux.
Creed, comment s'appelle-t-il, Révolution française.
Unity.
Ils ont intégré ce système qu'ils appellent aussi opportunité, je crois.
Parce qu'en fait,
au début, tu observes et tu vois tel mec qui parle à tel autre gars, tu dis ah, c'est une opportunité pour rentrer dans Notre-Dame par ici ou par là, en suivant le mec qui a les clés ou en profitant d'une baston.
Je sais plus si ça
s'appelle
opportunité, peut-être.
Un nom comme
peut-être
ça, en tout cas. Ça me fait penser à ça.
Mais c'est intéressant parce que tu as le choix, effectivement, de la saisir ou pas.
Puis pour les gens qui sont pas spécialement comme Julo, c'est-à-dire à pouvoir y passer 3 heures pour essayer d'observer vraiment chaque détail.
Alors c'est marrant, ouais, petite anecdote, parce qu'on voyait des images de Hitman pour nos premiums qui regardaient l'agent 47 évoluer dans ce niveau à Paris, notamment. Moi, je joue comme ça, c'est-à-dire que je marche, je ne cours jamais, j'observe autour de moi.
Mais
et avant
peux,
de passer à l'action,
tu peux t'accroupir en courant, plus vite. Et tu fais pas de bruit.
Avant de passer à l'action, j'observe. Je vais dans toutes les pièces.
Mais ça, c'est génial.
Voilà, je regarde tous les trucs et après, je choisis mon plan d'action. Alors que j'ai regardé plus mon jouet. Alors lui.
Ah, parce que je connaissais la mission.
Son temps à courir dans tous les sens.
Bus, moi aussi, je suis pressée de faire
le
job.
Il se fait repérer, il casse la gueule du mec, il le planque vite fait. Tu vois, il y a les pieds qui dépassent limite. Quoi,
c'est parce que je connaissais la mission, hein, c'est pour ça. Hein, je recommençais.
Moi, je suis
dans le
patron
et toi, t'es un peu.
Bah là, pour. Oui.
T'es un peu Rambo, quoi.
Bah, ça dépend des moments, mais là, c'était parce que je connaissais bien la mission et que je voulais essayer de débloquer.
Ce qui est intéressant quand tu joues comme Julo, c'est vrai que c'est que dans cet Hitman, on a vraiment des zones gigantesques. Tu le soulignais tout à l'heure. Et surtout là, en l'occurrence, on est dans un grand manoir parisien.
Et c'est très joli d'ailleurs.
C'est très versailleux.
Le désavantage, c'est que les gens qui jouent comme moi, parce qu'il faut savoir que je joue comme ça à tous les jeux, ou presque, hein, et bah c'est
même cool. Dans
Call of Duty, je joue comme ça.
On met 4 fois plus de temps que quelqu'un de normal pour finir un jeu, quoi.
C'est oui, mais c'est génial.
Mais c'est comme ça que ça doit se jouer. Hein.
Surtout jeux, Hitman, mais voilà.
Moi, pareil, par exemple, pour la saga Assassin's Creed, je suis même qu'avec toi, j'observe et tout, je regarde un peu tout ce qui se passe.
Assassin's Creed, dans Unity, justement, je me suis baladé.
C'est ça, moi aussi.
C'est génial.
Je prends mon temps, quoi.
C'est juste fantastique.
J'étais là, surtout quand tu découvres Paris et que tu connais Paris. À ce moment-là, bah, moi j'avais envie. J'étais à Notre-Dame, je disais, je vais aller voir à tel endroit si c'est.
Et là, ça a ramé, c'est dommage.
C'était... Non, ça a ramé.
Mais quand c'est bien modélisé, quand c'est fidèle
c'était
à.
La Sainte-Chapelle.
Voilà, qui... donc c'est, ça donne envie
Là, c'est très joli. Alors, il y avait des petits trucs dont on n'avait pas parlé tout à l'heure avec les déguisements, parce qu'il y a des déguisements, évidemment. C'est le principe de Hitman, c'est qu'il adore se déguiser pour pouvoir passer différentes. On va dire, pour rentrer dans des zones qui lui étaient inaccessibles. Il y a un système de reconnaissance, on va dire, qui s'est mis en place. Et puis, un système aussi d'IA d'ailleurs, hein. Si vous rentrez dans une zone qui vous est interdite et qu'il y a le garde qui est juste à côté, vous commencez à rentrer, le garde il va faire hey, hop, monsieur
pas
là,
passez
pas, machin. Ils sortent pas les guns directement comme dans les autres Hitman, donc ça c'est déjà un avantage.
Ils te laissent le temps d'essayer de gratter un peu,
des fois ils te fouillent aussi quand t'arrives par exemple au deuxième étage.
Mais t'as un petit point
c'est
blanc
pas mal
qui apparaît
quand ça
au-dessus
pas.
Des PNJ, des personnages qui sont un peu soupçonneux, donc ça te permet de savoir quel personnage t'ont un peu grillé, quoi.
ouais, ouais, malgré ton déguisement, ouais, ouais, lequel pourrait être repéré.
Tu sens qu'ils sont un peu interpellés.
Et en tout cas, au niveau réalisation, parce qu'on en a pas trop parlé, c'est très joli. C'est très joli.
Ouais, ouais, c'est très très joli.
C'est assez simple, c'est pas complètement dingue, mais c'est travaillé quoi.
Ça fait le job largement.
Il y a de jolis, comment dire, de jolis effets de lumière.
Même s'il y a toujours un côté vieillot, on a l'impression de jouer vraiment au même jeu que.
Il est un peu
que
rigide.
Sur les deux générations.
Moi, ce que je lui reproche, c'est de pas avoir su évoluer sur un truc, c'est quand il y a un corps qui est par terre, 47 qui quand même est gaillard, hein, faut le dire, le mec il veut pas le porter quoi, il va le traîner. Mais
bah, je pense que dans la réalité tu traînes les corps, hein, tu les ça va plus vite. Hein.
Ouais, enfin, disons qu'un corps inerte est plus lourd qu'un un corps vivant.
Le foot sur tes épaules et machin, c'est encore plus compliqué.
Big Boss il y arrive bien, hein, et on lui en veut pas.
Oui, mais
tu dis ça dans un souci de réalisme, moi je pense qu'on les traîne les corps.
Ouais, moi je suis pas bon. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien voir.
On les découpe aussi, mais ça, c'est une autre histoire.
Voilà. De quoi ?
On les découpe aussi.
Parce que c'est morbide cette conversation.
Bon, bref.
J'ai commencé la saison 2 de Fargo. Je sais pas si vous avez regardé, mais.
Oui, dans Fargo, ça découpe beaucoup. Oui.
Mais alors, attends, pour finir sur ce qu'il disait, effectivement, il y a ce système de reconnaissance qui fait que quand tu te déguises, effectivement, par exemple, ton chef d'équipe, si tu te déguises en serveur ou en mec de la sécurité, ton chef d'équipe qui connaît ces gars va peut-être percuté, de dire attends, lui je le connais pas, il fait pas partie de ma team. Et ça,
exactement,
c'est intéressant.
Il faut l'éviter. Et si
en flic, il faut éviter les flics.
Ça dépend vraiment. Des fois, il y a des flics qui te reconnaîtront pas. Parfois aussi, il y aura des membres du personnel d'autres castes qui vont te reconnaître.
Un petit défaut pour ceux qui veulent jouer sans les indications du.
Oui,
du
c'est que des fois on sait pas.
Bah c'est que tu peux pas savoir lesquels peuvent te reconnaître et lesquels peuvent pas.
Ouais.
Et donc le point disparaît aussi quand t'enlèves l'instinct.
Bah tu peux tout enlever.
Ah, parce qu'à ce moment-là, faut enlever tout, mais garder au moins les points, parce que savoir qui est susceptible
mais
de.
Mais moi j'ai trouvé ça bien ces petits points, parce
sinon,
que j'ai trouvé
tout
ça,
le monde, ça a plus aucun sens.
J'ai trouvé ça très léger, j'ai trouvé que ça c'était très élégant, très léger, très discret.
Pour ma part, je le garde, hein. Je vous laisse tout de suite. J'ai pas envie de.
On va pas s'emmerder la vie.
Une fois que tu connais par cœur une mission et que tu veux te la péter, là tu peux tout enlever. Mais
moi, non, à la limite, tu vois l'instinct pour les objets, pourquoi pas, mais là.
Mais ce qui est cool, encore une fois, pour les opportunités, c'est qu'effectivement, dans le menu de préparation de ta mission, tu peux choisir l'endroit où d'ailleurs tu commences. Une fois que tu l'as fini une première fois, tu peux choisir.
Et les sorties aussi.
Les sorties, tu peux choisir ton costume, tes armes secondaires. Moi j'avais pris la seringue, c'est très intéressant.
Ce qui est marrant d'ailleurs quand tu joues à Hitman, c'est la curiosité qui est attisée. En fait, à chaque fois que tu découvres un truc, mais tu sais pas comment l'utiliser. Tu vois, par exemple, dans la mission entraînement, tu peux trouver de la mort aura. La façon évidente de l'utiliser, c'est en la mettant dans le vin qui se trouve au bar, parce que tu vois que le mec il boit du vin et tout ça.
Mais ça, tu parles de l'autre que tu dois assassiner, mais tu peux le faire avec une autre personne que lui va rencontrer, mais qu'il a jamais vu de toute sa vie, et en qui tu peux choper le déguisement et du coup planifier encore ton.
Parce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, sur ce paquebot, j'ai vu qu'on pouvait mettre la mort aura dans la soupe qui est dans la cuisine, mais la soupe elle reste là en permanence. Lui il va jamais dans la cuisine, il bouffe pas et tout, et donc ça attise ta curiosité. T'as envie de trouver la bonne façon d'utiliser.
Pour tous les objets.
Ça incite à rejouer, tout comme les opportunités, tout comme. Enfin, c'est vraiment hyper
finalement,
intéressant.
Finalement, son
quoi.
Vrai défaut, je trouve,
c'est l'IA.
C'est l'IA et le côté vieillot, qui rigide et vieillot, qui
ça lui va bien.
Enfin, d'une formule qui a pas évolué en fait.
Très peu.
Qui avait finalement beaucoup plus évolué, je trouve, avec
Absolution. C'était
qui lui intégrait
action,
plein de nouveaux éléments.
Mais tu vois, je trouve justement qu'à un moment, enfin, après c'est très subjectif, mais je trouve que quand une sauce prend bien, qu'elle est bonne, pourquoi la changer?
Parce que moi justement je prenais cet exemple, je trouve que c'est assez intéressant. Moi j'étais dingue de Tony Hawk à l'époque de la PlayStation, ok. Il y a eu un épisode, deux épisodes, trois épisodes, et on lui mettait des 9 sur 10 quoi, ce jeu qui était génial. Déjà c'était novateur,
c'est vrai, c'était
et puis on reprenait tout le temps la même soupe, mais il rajoutait des petits trucs et ça nous convenait bien. Récemment, donc trois générations plus tard, il y a un Tony Hawk 5 qui sort sur
dans l'animal plus complet.
Dans l'animal plus complet, j'y rejoue et quand j'y joue, je me dis c'est marrant, c'est le même jeu, je retrouve mes réflexes, peut-être même un peu de plaisir et
mais
ça a vieilli, c'est fini.
Oui, mais même le jeu est mal foutu.
Les formules doivent évoluer.
Après, j'y ai pas joué, alors je peux.
Non, mais il avait d'autres défauts, absolument infect. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, aujourd'hui, si tu fais un jeu de skate, il faut pas que tu refasses Tony Hawk. Il faut que tu transcendes Tony Hawk. Donc Hitman, c'est pareil. Il y a un moment où on va se lasser. Si c'est le même jeu qu'il y a deux générations,
pas exactement. Parce que là, il y a des nouveautés
quand même.
Tu te retrouves. Dans une ère de jeu là à Paris. Et je parle pas encore de Sapienza ou des autres qui vont arriver par la suite, qui vont être encore plus grandes. Mais rien que Paris, c'est gigantesque.
Non, mais il y a un milliard de trucs. Sapienza, ça a l'air beau aussi. C'est une petite station balnéaire en Italie.
Absolument, ouais. Il y aura Marrakech aussi qu'on a pu voir.
Je pense qu'il faut quand même transcender la formule au bout d'un moment pour donner un souffle nouveau à une série, quoi.
Je suis d'accord avec... Oui et non, en fait.
C'est ce qu'ils
n'ont
pas fait
toi.
Avec Assassin's Creed non plus, sauf qu'eux, en plus, ils le faisaient sur un rythme annuel, donc on s'est fatigué encore
Assassin,
plus vite.
Assassin, c'est mieux de faire une pause,
et
ça,
bah,
c'est clair.
Non, mais apparemment, ils vont complètement changer système, alors, moteur et tout. Quoi.
Alors après,
il y a un moment où il faut le faire.
Regarde
ça.
Par exemple Resident Evil, c'est un bel exemple, surtout pour moi, c'est vraiment un très bel exemple. L'épisode 6 et même l'épisode 5, ils ont voulu un petit peu rafraîchir le gameplay, même l'univers, etc.
Bah c'est le 4 qui a rafraîchi,
les codes,
etc. Changé.
Mais en fait, c'est le 4.
Bah oui.
Mais ouais, mais le 4, c'était
le 4,
un savant mélange
entre,
Ils ont gardé quand même l'ADN de Resident Evil en prenant un virage action qui était vraiment intéressant. Mais on a gardé l'ambiance, etc.
C'est un très bon exemple, Resident Evil. Pour moi, il faut faire
le
Resident Evil 4 de Hitman.
Le Resident Evil 4, mais pas le 6. Le 6, ils sont partis
non,
trop
pas
loin.
Le 6, mais
c'est pour ça que je te dis, je suis d'accord, il faut rafraîchir, il faut changer, il faut renouveler.
Mais il faut pas faire n'importe quoi.
Mais sans
faut
perdre
pas tout casser,
l'ADN.
Mais
voilà.
Et ils l'ont pas perdu, je trouve,
ils
dans le 4.
Perdu
et pourtant,
dans le 6,
ils ont
moi.
Vraiment changé le gameplay.
Bon, c'est-à-dire, on parle de Hitman. Donc, là...
Mais oui, mais il y a un vrai rapprochement, je trouve, entre
non,
Tony Hawk et Hitman. Entre Resident Evil et Hitman.
Tout
c'est
à
des
fait.
Séries fondatrices, éculées au bout d'un moment parce que les épisodes se sont suivis et se ressemblaient tous. Même si on y prenait du plaisir parce que la formule était géniale. Mais il y a un moment où ça a ses limites de dire non, la formule est géniale, c'est bon, resservez-moi la même soupe tous les ans, c'est
non,
bon,
non,
j'adore,
faut,
je prends.
Évoluer.
Bah non, il y a un moment où ça
il faut
c'est
évoluer.
Fini.
Si on regarde bien d'ailleurs le 6, Resident Evil 6, le meilleur moment de Resident Evil 6, c'est celui qui c'est le moment où on retrouve Resident Evil 4 avec la campagne de Léon, que j'ai adoré d'ailleurs. C'est pour ça que le 6, je l'ai pas forcément fondamentalement détesté, puisqu'il y a la campagne de Léon que j'ai adoré. Mais je pense qu'il faut faire évoluer le jeu vidéo sans perdre, voilà, ce qui fait l'ADN d'une licence. Voilà.
Et surtout
c'est
pas,
pour Hitman, c'est pas perdu.
Et surtout pas rester sur ses acquis en permanence, ce que fait Hitman.
C'est pas faux.
Et
je trouve pas, moi.
Ça va.
En élargissant un petit peu l'échelle du jeu,
ouais,
je trouve que justement.
Si tu veux, je suis d'accord avec toi sur la note que tu mets et tout ça. Mais pour moi, ça peut pas durer. Il y a cet épisode-là qui en plus va être divisé en épisodes.
Mais vieux,
mais
tu te rappelles,
il faut
à, chaque Hitman, à chaque Hitman, on dit toujours les mêmes choses. Je crois que je te le rappelais encore hier.
Les branches.
À chaque Hitman, on dit. Putain, c'est génial, il y a une super ambiance, il y a des tas de possibilités, mais alors l'IA, elle pue la merde. On le dit à chaque épisode.
Ouais. Moi, tout jusqu'à ce que ça casse.
C'est
comme une relation amoureuse. Si t'arrêtes de surprendre, il y a un moment où il n'y a plus d'entretien de la passion.
Et ben, on verra, parce qu'il y aura d'autres épisodes justement dans l'année. Et après, c'est IO Interactive qui va avoir l'occasion justement de rectifier le tir sur certaines choses. On l'espère, ils auront peut-être la main un petit peu sur l'IA. Peut-être qu'ils vont retirer un peu de.
Tout à fait.
Tu sais, sur leur version de bureau là, de Sapienza ou de Marrakech ou du Japon et je ne sais quels autres. Niveaux qui sont prévus, peut-être qu'ils vont retirer du
moi,
monde.
Moi je pense qu'il y a de
dire,
nouveaux rois de l'infiltration qui vont naître des suites de ce genre de frustration. Et pour reprendre mon exemple de Tony Hawk, Tony Hawk s'est répété et n'a jamais changé sa formule, n'a fait qu'ajouter des trucs à une formule. Il disait c'est bon, les gens adorent, on reste comme ça. Skate est sorti. Et les gens ont fait waouh, on peut faire les jeux de skate différemment. Et en fait, c'est vachement bien. Et c'est plus ce qu'on attend, etc. Et ça a ringardisé totalement. Tony Hawk.
C'est quoi qu'elle avait adoré sur Vita? C'était Oli Oli, c'est ça?
Oli Oli, c'est génial.
C'était génial.
C'est un retour
hyper addictif, c'était mortel.
Ouais.
C'était vraiment pas mal. En tout cas, moi, pour ma part, vraiment séduite par ce premier épisode d'Hitman, malgré une IA aux fraises, effectivement.
Moi aussi, je suis assez content d'y avoir joué, mais j'aimerais bien que pour la suite, effectivement, ils évoluent un petit peu et ils prennent en compte certaines choses en termes d'IA, notamment. Et puis, bon, bah, après, on verra. De toute façon, il y a jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir voir quelle direction prend le jeu, voir si les nouveaux environnements vont proposer encore plus de challenges. Normalement, oui. En tout cas, j'ai eu des petits aperçus dont je peux pas trop parler qui me laissent à penser que ça va être c'est bien pour les gens qui veulent de l'assassinat furtif qui se passe pas en 3 secondes qui veulent éviter les improvisations comme on peut en avoir dans MGS5, des trucs où on arrive comme un bourrin. Moi je me rappelle toujours de cette vidéo où t'as un mec qui arrive avec une Jeep avec alors c'est bien, ça montre qu'il y a beaucoup de possibilités. D'ailleurs MGS5 de ce côté là et franchement on n'a rien à envier à Hitman, mais il arrive avec une Jeep avec des fumigènes dedans. Du coup tout le monde dans la base regarde le truc, fait hein, qu'est-ce qui se passe, mais il le repère pas lui, du coup il désingue tout le monde les uns après les autres. Voilà, on n'a pas ça dans Hitman hein. Dans Hitman quand vous commencez à faire du combat, ça finit soit par votre mort.
Ah ouais, non, mais
soit,
ça finit mal en général.
Voilà,
c'est très difficile de s'en sortir.
Soit vous êtes
dans MGS,
déçu parce que l'IA elle était pas bonne quoi.
De toute façon j'ai envie de dire effectivement on a affaire à deux jeux d'infiltration, Hitman MGS, et en même temps je trouve que c'est incomparable.
Ouais, non, mais c'est pas du tout
la
même approche.
À la limite, Hitman.
Il y a Splinter Cell aussi.
Bah, c'est ce que j'allais dire. On a Sam Fisher qui est là aussi. Et d'ailleurs, j'avais adoré le dernier qui s'appelle Blacklist. Blacklist était vraiment génial. Et à la limite, on peut comparer Splinter Cell à MGS. Mais je trouve qu'Hitman, c'est encore autre chose.
C'est presque un genre à lui tout seul.
Ah bah c'est un simulateur de tueur à gages. De toute façon, c'est pas du tout dans la même veine. Mais comme c'est de l'infiltration, évidemment, on est obligé de les comparer un tout petit peu.
Par contre, moi, j'ai pas compris. Il y a du loot ou pas dans ce jeu?
C'est bon ça.
Ouais, bien sûr, tu peux looter après tout ce qui traîne, tous les objets qui traînent. Et il y en a beaucoup, évidemment.
Ok, des molettes, des marteaux, des couteaux.
Oh là là, du poison. Qu'est-ce que j'ai ramassé d'autre comme truc? Une brique.
Moi, je ramasse tout. Moi, je joue une clé à molette, je ramasse.
Tu la jettes à la tête de quelqu'un.
Tu la jettes ou
des pièces de monnaie, des cordes de piano, bref, vous aurez tout ce que vous voulez si vous voulez faire.
Petite précision, donc il est vendu épisode par épisode, mais il y a un season pass.
Absolument,
qui va faire le jeu complet. Et il coûte combien le season
pass? 70,
59 euros sur console ou 49 sur PC. Alors, pour le premier épisode, le starter pack, c'est 14,99€. Mais je ne crois pas avoir eu connaissance du prix des prochains.
Bah ça doit être moins cher, non?
Normalement, c'est 7 euros, non?
Normalement, c'est 7 euros?
Ouais, ça doit être.
Je ne me rappelle plus, mais bref, ça devrait être moins cher.
C'est moins cher. Là, c'est plus cher parce qu'il y a l'entraînement à Lycée, quoi. Donc il y a plusieurs missions, on va dire.
Absolument, mais ouais, à chaque fois, de toute façon, quoi qu'il arrive, on se retrouve plus en
première saison. Il y en aura 7 en tout?
Il y en aura 7 en tout en 2016 pour la première saison.
Oui, donc ça sera moins cher les autres, c'est sûr.
Absolument.
Bon. Absolue,
mais le mieux, évidemment, si vous êtes vraiment accro, c'est de craquer direct sur le site.
15 euros, ça peut pas être ça.
Là, ce serait une sanction. Une sanction immédiate.
Du foutage de gueule, quand même. Très cher, voyons.
Ah, bah oui. Hein.
Enfin, voilà. Donc, Hitman, qui est donc sur PC, PS4 et Xbox One, avec ce premier épisode qui se déroule à Paris. Perso, je vous le conseille, malgré mes réticences concernant l'IA et quelques mécaniques un peu vieillottes.
Voilà.
Pourquoi tu nous fais Kermit la grenouille là?
Attendez.
Parce que cette semaine, comme d'habitude, nous allons passer au hors-jeu, jeune Jean.
Le hors-jeu.
Avec Camille, Carole et Julo, nous allons vous parler livres, séries, mangas, cinéma. Et plutôt pour commencer, séries. D'ailleurs, je me sens un peu con parce que j'ai l'impression d'être le plus pop culture et le moins culture tout court.
Et alors
Il n'y a pas de culture aussi.
Ouais, on ne sait jamais. On pourrait toujours me le reprocher un jour.
Bref, de la culture.
On va commencer avec moi pour changer. Et ça va parler d'une série qui est sur Netflix. Oh, bah dis donc, incroyable, encore Netflix. C'est bizarre, on n'en parle jamais de Netflix.
C'est bizarre, oui.
Eh bien, c'est House of Cards, dont l'intégralité de la série est arrivée sur Netflix. D'ailleurs, Julo vient de commencer, mais c'est surtout la saison 4 qui vient de débuter. Et
autant dire que j'ai du pain sur la planche.
Oui,
tu vas t'éclater. T'as
du rattrapage.
Pain spiritique
sur la planche.
Et donc, cette saison 4, dont j'ai pu regarder les premiers épisodes, l'ambiance, c'est toujours pas la fête au village, hein. C'est même encore plus tendu que jamais. Pour Frank Underwood, incarné par Kevin Spacey, je vous en dis pas plus sur...
Un personnage si sympathique.
Kevin Spacey, c'est un génie. Il est exceptionnel.
Je vous en dis pas plus sur l'intrigue à la fin de la saison 3. Toujours est-il que ça va pas aller en s'améliorant pour sa situation personnelle, aussi bien sur le plan politique que sur le plan privé. J'en dis pas plus, mais Robin Wright, qui joue sa femme, avec lui ça va pas être forcément la vie en rose. Enfin bon
leur couple est assez bizarre, ouais. C'est assez malsain de toute façon,
c'est glaçant.
Je veux dire,
à quel point
à un moment donné, elle a jamais eu une vie facile, même dans Santa Barbara elle était pas
quand elle jouait Kelly Capwell,
qu'est-ce qu'elle était belle, Kelly.
Ouais, je préfère Aiden.
Tu te souviens quand on a tué Joey?
Non, je me rappelle pas.
Mais
je rappelle,
c'était son chéri Joey.
Ah bon?
Il se fait assassiner.
J'ai aucun souvenir.
Le Capwell et les Lockridge, c'était fantastique.
Je me rappelle plus. Je me rappelais même plus la famille Lockridge, tu vois.
Ouais.
Perdu. Je me rappelle
Il y avait Eden.
De Cruz.
Avec Cruz.
Voilà, Cruz Castillo,
bien sûr, qui était un inspecteur de police, sortait donc avec Eden, qui est la sœur de Kelly. On vous invite à regarder Santa Barbara.
Grande série des années 80 que je regardais.
Un soap opéra.
À peu près tous les soirs vers 18h-18h30 sur TF1. Ouais.
Mais aujourd'hui, on a les Feux de l'amour.
Sérieusement?
Ouais, sérieusement.
Ah, c'était génial. Mais moi je suis une grande fan des Feux de l'amour. Victor Newman, tout ça.
D'accord.
Et je vois Poufy qui est mort de rire derrière. Te fous pas de nous, s'il te plaît.
Ouais. Bon, enfin bref, ce House of Cards saison 4,
le temps perdu.
Non, parce tu joues aux jeux vidéo, tu perds pas ton
mais
temps.
Mais non, c'est pas ça, t'imagines. Parce que je sais pas, il y a 2000 épisodes de ça.
Alors, les Feux de l'amour, ça fait presque.
T'imagines le nombre d'épisodes que t'as regardé de la merde, quoi. Enfin,
les Feux de l'amour, 20 ans, je crois. 20 ans.
Plus que ça, je crois.
25
Bon, plus que ça.
Non, mais t'imagines.
Comme
ils ont commencé.
Madame Chancellor, elle y est depuis le début.
Mais là,
elle est décédée
d'ailleurs,
Madame Chancellor. Bien sûr.
Putain.
Quand je peux, je regarde, c'est 14h tous les jours sur TF1.
Même Netflix, ils peuvent pas le mettre, il y a trop d'épisodes, quoi.
Ah oui, mais c'est ça. Ils ont commencé, ils étaient tout jeunes dans les années 70. Donc, ah oui, effectivement, donc ça fait beaucoup
plus. Oui, ça fait beaucoup plus que ça.
Fin 70, ouais. Tu t'imagines?
Eh oui.
Et Santa Barbara, c'était un petit peu plus court.
Ouais, ouais. Moi, je regardais Dallas.
Bon, je peux conclure ou tu veux encore me couper, Julo, juste pour savoir, parce qu'on parle tous en même temps, c'est rigolo, mais c'est assez inaudible.
Ah, moi, je parle pas en même temps, j'attends toujours mon tour.
Non, t'attends pas ton tour, tu me coupes et tu parles en même temps et tu fais blablabla.
Pas du tout.
Bon, bref, House of Cards saison 4, vous pouvez y aller. Si vous avez aimé les trois premières saisons, ça devrait vous suffire largement, en tout cas en termes de malaise. Il y a ce qu'il faut. Julo, justement.
Non, bah, je parle
non, bah, tu parles plus. Ouais.
Est-ce que tu vas voter pour Frank Underwood?
Je sais pas encore. J'ai pas encore.
Parce qu'on a un petit drapeau
pour
2016.
Julo,
toi, tu vas nous parler.
Oui.
Pour changer, un peu littérature.
Exactement, parce que quand j'ai pas beaucoup regardé Netflix ou alors que j'ai regardé des trucs que tout le monde a déjà vu ou déjà abordé dans voilà, dans ces cas-là, je vous parle de mes livres préférés. Donc la dernière fois, c'était Musashi, La Pierre et le Sable, La Parfaite Lumière. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes bouquins préférés, donc qui s'appelle Le meilleur des mondes. Alors Le meilleur des mondes. C'est un livre qui a été écrit par Aldous Huxley. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Aldous Huxley a écrit ce bouquin en 1932. Okay, le gars est quand même né en 1894, d'accord. Mm-hmm. Et c'est un roman d'anticipation, de science-fiction, d'anticipation, ouais, sur ce que pourrait devenir le monde. Et croyez-moi, c'est une dystopie terrible et ça fait des frissons dans le dos de lire cette histoire. On est dans un univers donc totalement dystopique, c'est-à-dire une contre-utopie, quoi, dans lequel il n'y a plus qu'un seul État, c'est l'État mondial. Et dans cet État mondial, la société est complètement globalisée et tenue d'une main de fer par un système absolument dégueulasse dans lequel les gens, l'individualisme et la culture sont bannis. Mmh. Et où, en fait, la reproduction sexuée a totalement disparu.
Ça rappelle Game Blog un petit peu tout ça.
On produit, en fait, on produit les êtres humains en laboratoire. Mmh. Et on les prédestine directement à faire partie du groupe alpha, les dirigeants, du groupe bêta, les travailleurs intelligents, du groupe gamma, du groupe delta ou du groupe epsilon, qui sont en bas de chaîne des individus presque difformes, complètement cons. Mmh. Qui sont là pour effectuer toutes les basses besognes. Et on se débrouille génétiquement pour rendre les alphas beaux, forts et grands. Mmh. Et plus on baisse dans les catégories, plus on injecte des trucs comme de l'alcool par exemple dans les embryons pour en faire des êtres moches et finalement voilà, presque simiesque. Et donc dans cet univers la culture n'a pas le droit de citer, les sentiments pas vraiment non plus, la sexualité existe mais il n'y a pas vraiment de notion de couple, c'est banni en fait, hein. Tu peux avoir un partenaire sexuel une semaine ou deux et puis passer à un autre, mais surtout pas s'attacher, etc. Et c'est finalement une société dans laquelle on maîtrise absolument tous les humains pour les allouer à différents. On va par exemple produire plus de bêta, plus de delta en fonction des besoins de la société, et donc c'est une espèce de société qui fonctionne à la perfection, mais qui évidemment.
Mais c'est juste descriptif. Il y a une histoire dans ce livre.
Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Bernard.
Mm-hmm. Et Bianca.
Qui est en fait, lui c'est un alpha. Mm-hmm. Mais bizarrement, contrairement à d'autres alphas, il est petit et gros. En fait, il ressemble plus à un gamma qu'à un alpha. Assez étrange. Et en même temps, il a besoin de liberté et de comprendre le monde qui l'entoure, etc. Et s'immisce en lui une sorte de rejet de cette société. Et on apprend d'ailleurs qu'en marge de cette société vivent ce qu'ils appellent les sauvages. Mm-hmm. Des réserves. Et ces gens-là sont des êtres humains comme vous et moi qui ont refusé ce système et qui sont en couple et qui vivent sous le même modèle que nous, quoi. Et donc il va être très mal vu rapidement par les hautes sphères de cette société ignoble lorsqu'il va s'intéresser à ces sujets-là. Et on va suivre donc son histoire et ça va se finir, ça je vous le dirai pas, mais voilà, il y a tout un développement assez génial. Mais ce qui est brillant en fait là-dedans, c'est quand on se rend compte que Aldous Huxley, je le répète, né en 1894, qui écrit ce bouquin en 1932, a écrit les dérives de notre société d'aujourd'hui. Mmh. C'est bluffant. Moi, quand j'ai commencé à lire, je ne savais pas qu'il avait écrit ce bouquin en 1930. Et quand je l'ai découvert, ça m'a totalement scotché. Et d'ailleurs, 26 ans plus tard, pardon, en 1958, il écrira un deuxième bouquin en rapport avec celui-là qui s'appelle « Retour au meilleur des mondes » et qui en fait n'est pas un roman cette fois mais un essai. Et dans cet essai, il analyse le monde tel qu'il est aujourd'hui et il le rapproche à la vision qu'il a eue à travers son premier bouquin en 1930 et il est frappé de voir qu'on est dans cette dérive
dirige, ouais.
et qui, même s'il pensait qu'on allait vers ce genre de société, il est assez flippé du fait qu'on soit arrivé si vite dans ce genre de dérive. Et évidemment, bon, le bonhomme est mort en 1963. Mmh. S'il avait su comme on allait encore de plein pied dans cette direction. Voilà. Donc c'est un récit fascinant qui, voilà, j'ai pas dit, mais tous ces gens-là bouffent une drogue qui s'appelle le soma et qui les rend heureux. Voilà, et qui les empêche de réfléchir, parce que non, faut pas réfléchir, contrairement à Bernard, qui lui déteste cette drogue et donc n'est pas victime de cette espèce d'opium du peuple, hein, comme le dit l'expression. Cette drogue s'appelle le soma, qui a aucun effet négatif. Hein, c'est la drogue parfaite. Ça te met bien, mais il y a aucun effet négatif.
Comme dans BioShock finalement.
BioShock, c'est ça. BioShock, c'est une société dystopique. C'est tout à fait inspiré, voilà, de ce genre de récit, quoi. Donc je vous le recommande vraiment. C'est pas un grand roman. Je crois d'ailleurs qu'il l'a écrit en quelques semaines. C'est un petit roman. C'est un indispensable Gameblog. Voilà.
D'accord, très bien.
Bah, indispensable Julo. Si vous aimez les récits de science-fiction d'anticipation, celui-là il est particulièrement fascinant et fondateur. Voilà.
Bah, écoute, on va rester, non peut-être pas dans la science-fiction, mais en tout cas on va s'éloigner un peu de la Terre avec toi, Carole.
Absolument.
Toi qui nous fais déjà aller au 7e ciel, j'ai envie de dire.
C'est beau.
Là tu nous emmènes sur Mars grâce à une exposition en fait qui a lieu au Palais de la Découverte. C'est une exposition sur Mars donc.
Tout à fait, en ce moment, une exposition qui donc effectivement vous emmène sur Mars, nous emmène sur Mars. Et en fait permet sur un petit parcours, alors c'est relativement petit, mais si vous passez un petit peu de temps, si vous prenez le temps de lire toutes les bornes, de regarder toutes les petites miniatures, alors il y a des écrans, il y a des cartes, il y a tout un tas de textes qui parlent, qui racontent l'histoire de Mars, de la NASA. Voilà, c'est très interactif. Je sais pas si tu y es allé du coup.
Non, pas encore non. Mais ça me fait de l'œil cette.
C'est vraiment hyper intéressant et c'est en ce moment donc au Palais de la Découverte à Paris. Ça dure un petit moment, il me semble, jusqu'à fin avril, vous me corrigerez si je me trompe, mais en tout cas voilà, on a des textes de la NASA, on a pas mal d'éléments intéressants, on a également une maquette de Curiosity, le robot qui
la
est parti,
sonde robot qui est parti
sur Mars pour étudier, voilà. Et c'est vrai que moi ça m'a toujours intéressée. Pourquoi? Parce que déjà je suis passionnée effectivement par tout ce qui est espace, astronomie, etc. Avant c'était la Lune et maintenant c'est Mars. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été passionnée par les sommets et je ne sais pas si vous le savez, mais sur Mars il y a le plus grand mont de l'univers qui s'appelle le mont Olympe, le mont Olympus, et il fait environ 22 500 km de haut.
Oh la vache!
Voilà, donc quand on compare par exemple à l'Everest qui fait 8 448 mètres ou un truc comme ça, je dois pas être loin, imaginez 22 500 km de haut. Et sa circonférence, je sais plus exactement, mais ça fait, si on le pose sur la France, il fait toute la France. Donc c'est quand même assez exceptionnel. C'est dans la zone du Tarsis, il me semble. Et c'est vraiment intéressant d'apprendre des choses sur les autres planètes. On apprend aussi que Mars donc est beaucoup plus petite que la Terre. T'as tout un tas aussi de petites expériences. Par exemple, tu plonges tes mains dans une sorte de caisson transparent.
Et puis comme il faut à Fort Boyard, en fait, c'est des rats qui sont à l'intérieur.
Ça.
Tu dois prendre
les
clés.
Là, c'est pas des rats, mais c'est des petites balles en fait orange que tu dois mettre sur une balance.
Et là, il y a Thierry Beccaro qui arrive et qui dit
mais gâche tout enfin. Tu dois mettre en fait des petites balles orange qui représentent la planète Mars sur une balance. Tu as la Terre de l'autre côté, un ballon qui représente la Terre, et je crois qu'il faut mettre environ 9 planètes Mars pour égaliser le poids de la Terre. Tu vois aussi certains objets que tu peux donc prendre, toucher et peser, et tu te rends compte que c'est beaucoup plus léger sur Mars. Tu peux aussi passer devant
des hommes.
Du coup,
on peut y aller avec des enfants, c'est intéressant pour eux.
Ah mais c'est super intéressant. Il y avait plein d'enfants d'ailleurs, justement, et tu apprends plein de choses. Même moi, je m'intéresse vachement justement. À l'histoire de l'astronomie, des planètes, etc. Et puis j'ai appris plein de choses. Alors évidemment, je ne savais pas tout sur Mars, mais j'étais quand même bien renseignée. Et j'ai appris d'autres choses, notamment la vitesse du vent. Un vent à 70 km/h sur Terre, c'est un un souffle très léger sur Mars, donc ça change beaucoup de choses. Voilà, c'est, y a, on a le, effectivement cette maquette de Curiosity qui est d'ailleurs, je crois, qui est à échelle
réelle.
Réelle, voilà. Donc c'est vraiment hyper intéressant, c'est petit et en même temps, si tu prends le temps de tout lire, de regarder, de
c'est
contempler...
C'est marrant, depuis que je suis tout petit, moi, dès qu'on évoque Mars, ça me fait irrémédiablement penser à Total Recall, tout le temps.
Ah, ouais, bah, ouais, c'est normal.
Ça. Moi, ça me fait penser au
Colis. Total Recall, ça m'a tellement marqué que moi, j'ai vu ça petit. Donc maintenant, dès qu'on évoque Mars, je repense à Total Recall. Quand tu parles des vents, etc.
Mais oui, mais c'est ça.
L'implantation humaine sur Mars,
c'est très intéressant. Mais d'ailleurs, là, tu peux même toucher un bout de...
De Schwarzenegger.
Un bout, non.
Le petit bout de Schwarzenegger.
Un petit bout d'astéroïde, quoi, qui vient de Mars. Donc, c'est assez intéressant. T'as tout un tas de petits.
Donc, c'est au Palais de la Découverte, c'est
Palais
gratuit.
Palais de la Découverte.
Non, c'est pas gratuit.
Non,
hein.
C'est pas gratuit. C'est 7 euros, il me semble. Mm-hmm. Voilà.
D'accord.
Et, donc, c'est pas très cher. C'est gratuit pour les journalistes.
Ouais.
Mais c'est très intéressant, en tout cas. Effectivement, si vous voulez y aller avec vos gosses, c'est une belle sortie. Puis, c'est l'occasion aussi de s'instruire. Voilà. Puis, il y a plein de choses aussi au Palais de la Découverte. Il n'y a pas que ça. Il y a les dinosaures en ce moment. Il y a aussi bien sûr donc tout ce qui parle, tout ce qui traite de l'espace, etc. Ouais. Mais il y a aussi tout un passage. Moi, c'était la première fois que j'y allais. Je suis marseillaise, je connais pas
j'ai
bien.
J'ai quelqu'un qu'on connaît un peu.
Quelqu'un qu'on connaît qui
Sébastien,
est là-bas.
Sébastien, ouais, qui est de Reims comme moi. Donc, je salue. Salut Sébastien.
Voilà, qui est là-bas aussi. On l'a pas croisé, mais on l'a vu sur une petite vidéo justement.
C'est vrai, dans le reportage
sur
France
Mars,
3, qui était diffusé en fait pour les premiums, qui était diffusé en même temps que Carole parlait, mais elle ne le regardait pas.
Ah, voilà,
et donc, on l'a aperçu rapidos.
Mais en tout cas, voilà, très intéressant le Palais de la Découverte et notamment cette exposition sur Mars. Je vous la conseille fortement. Voilà.
Très bien, bon, on va passer au hors-jeu de Camille pour la semaine. Écoute, c'est un livre aussi très récent comme Julot, hein, je crois.
Non, effectivement, Julot, c'était en 1930, moi c'est en 1830.
Oh là !
Donc avec la Vénus d'Île de Prosper Mérimée, donc vous l'avez sûrement lu au moins une fois au collège.
À l'école.
Effectivement, alors moi à l'époque, je me suis dit, ah mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire étrange ? Comme beaucoup de collégiens, on n'aime pas forcément la lecture. Avec le temps, j'ai beaucoup apprécié la lecture. Maintenant, je suis un énorme passionné de lecture. Et j'ai relu, trouvé au fond de mon placard, La Vénus d'Île. Donc, je l'ai relu avec passion cette fois-ci. Et c'est vrai que c'est un roman fantastique, enfin une nouvelle fantastique qui est vraiment... vraiment très bien ficelé. Alors pour
de quoi
rappel,
que ça parle,
ça se passe dans le sud de la France, vers Perpignan. Donc c'est un homme qui est invité par un amateur d'art, et cet amateur d'art a fait des fouilles fréquentes autour de la ville et ils viennent de trouver une Vénus. Il la présente à une sorte de conférence, enfin c'est pas une conférence à l'époque, mais c'est une espèce de présentation
public,
avec, tout le gratin, des archéologues, etc. Et il se trouve que cette fameuse Vénus d'Île a quelque chose de très particulier, c'est que pendant la nuit où les gens qui sont là pour l'admirer dorment, elle se déplace.
Comme dans Toy Story, quoi.
Voilà, elle se déplace, mais pas uniquement.
C'est référence.
Oui, pardon.
Incroyable.
Donc c'est Toy Story en 1830. Ok, voilà, ça y est, j'ai compris.
Mais on sait pas vraiment d'ailleurs. On sait pas d'ailleurs si elle se déplace vraiment, mais on se doute, elle change parfois de place. On a l'impression, quand on la regarde, on a l'impression qu'elle nous regarde aussi. Elle a un regard très. Très perçant. En fait, chaque personne qui l'admire se voit percée de son regard. En fait, on a l'impression qu'elle est vraiment vivante en dessous, quoi. Et vraiment, tout le mystère de ce roman va être autour de cette Vénus et du mystère qu'elle a. Donc, je vais pas vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais c'est vrai que c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là, d'autant que c'est une des rares. Prosper Mérimée, à la base, il a fait très peu de romans. C'est un amateur d'art, un archéologue. Et c'est d'avoir fait une histoire fantastique comme celle-ci, c'est vraiment. On pourrait appeler ça du fantastique archéologique, quoi. C'est vraiment particulier. Et c'est. Dans le fantastique littéraire, c'est un des seuls qui a réussi à rendre ça. Il y a une atmosphère du début, de la première ligne jusqu'aux dernières, de mystère intense. D'ailleurs, je m'étonne que c'est pas été adapté plus fréquemment au cinéma. Ça pourrait faire.
Ça a été le cas, non ? Tu sais pas ?
Il y a eu des pièces.
Il y a eu des pièces, mais c'est vrai que c'est au cinéma, ça pourrait faire une très très bonne adaptation.
Je me suis fait la même réflexion avec Le Meilleur des Mondes et j'ai découvert tout à l'heure en faisant mes petites recherches qu'il avait été adapté à la télévision.
Ah ouais,
c'est tout ce dont il a eu droit, quoi. Mais en fait, il mériterait un vrai film.
Il y a des inspirations, par exemple, de l'histoire. Il y avait Convergence. C'est pas vraiment le genre de film que j'apprécie, mais il y a une histoire un peu comme ça où il y a des castes qui sont. Enfin, les gens sont créés dès leur naissance, ils sont habilités à des tâches particulières. Ils naissent.
Beau projet de société, quoi.
Voilà, l'eugénisme, l'eugénisme. Mais c'est vrai que oui, enfin, il y a eu beaucoup d'inspiration pour ça. En tout cas, pour la Venus Deal, c'est vrai que ça mériterait une adaptation digne de ce nom, et je le regrette fortement. En tout cas, si vous ne l'avez jamais lu, allez-y, ça coûte 3-4 euros.
En poche
et
facile
c'est vraiment facile à trouver partout, et ça, vous allez passer un très bon moment. Voilà.
Eh ben très bien, bah merci. Hein. Merci à tous pour vos hors-jeux hebdomadaire.
Merci à toi, Plumeau.
Oui, mais à toi surtout. Oui,
merci
à toi.
De rien.
Mais sans toi,
n'oubliez pas.
Sans toi,
n'oubliez
pas
de voter évidemment Frank Underwood pour la fin d'année 2016.
Du loot aussi.
Et le loot. N'oubliez pas
de loot.
Enfin bref.
Du loot.
Merci à tous d'avoir participé à ce podcast. Merci Camille. Merci Carole.
Merci
Julo.
Merci
Plumeau. Merci Poufi hein, à la sono comme d'habitude.
Merci Papa.
Merci maman. Voilà, exactement. On remercie tout le monde.
Merci
Leonardo DiCaprio.
Merci d'avoir soutenu.
Voilà.
Merci Léo. Bravo
Léo. Exactement. Merci à vous surtout. Eh bien de nous avoir encore une fois regardé si vous êtes prêts ou écouté si vous êtes un auditeur habituel des podcasts. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. N'oubliez pas, avant qu'on se retrouve, s'il y a les commentaires là juste en dessous hein, surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires si on a dit des bêtises, ou même au contraire si vous êtes content de ce qu'on a dit, ou si vous rejoignez tout ce qu'on a pu dire concernant Hitman ou The Division, même le Win and Fail au passage, ou encore sur les loots. Eh bien n'hésitez pas, il y a les commentaires qui sont là justement pour ça. C'est le moment de vous faire nos adieux et de vous dire à la semaine prochaine, évidemment. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Et lootez bien, bien sûr. Faut looter
des bisous
aussi.